I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Aujourd'hui, c'est une histoire, je pense, comme vous n'en aurez, c'est même sûr, jamais entendu de votre vie, puisque c'est l'intro excès d'usage. Bon, bah, on veut simplement vous dire, le simple fait que ton premier combat de MMA, c'était contre Charles Oliveira, c'est peut-être le truc le moins fou de ta vie, et c'est vous dire là où on en est. Et puisque c'est l'introduction, c'est une des histoires les plus inspirantes que j'ai entendues, parce que, pour faire très court, et bien sûr, on va en revenir en détail, à 15 ans, on est en 2001, c'est le 11 septembre, à la télé, tu vois des images qu'on connaît tous, bien évidemment, s'en suivent, mais pour d'autres raisons qu'on va aborder, parce que c'est vraiment important, notamment l'exclusion, etc., on en arrive à « Tu veux rejoindre les rangs de Ben Laden en 2001 ?» Et c'est le MMA qui va te sauver la vie parce que ça va te donner une autre voie, une meilleure voie pour juste réussir ta vie de la manière dont tu l'entendais et accomplir un destin qui aujourd'hui, vu tout ce que tu as accompli, même dans ta vie perso, etc., on va parler de tout ça. Ça va être, je pense, vraiment très intéressant pour tout le monde parce que c'est une histoire qui est universelle. Mehdi Bagdad, si t'es chaud, c'est parti.
C'est parti. Swear.
En fait, tout simplement, je crois que là, il me reste qu'à te lancer. Comment est-ce qu'on en arrive à ce moment-là, en 2001 ? Est-ce que tu peux nous faire rembobiner un peu, nous raconter un peu ton enfance et comment t'en es arrivé là ?
Ok, parfait. Je vais faire un petit tunnel. En fait, étant jeune, je viens d'une famille d'un grand frère et une petite sœur, avec des parents qui étaient des gros travailleurs. Ma mère qui venait de... qui est foraine, qui vient des marchés, une famille de 13 enfants. Les 13 travaillent sur les marchés. Depuis tout jeune, ma mère m'a appris le travail paye. Donc j'ai toujours travaillé sur les marchés depuis tout petit. Depuis l'âge de 10 ans, je travaille sur les marchés. Et j'ai toujours eu ce que je voulais, à une condition que je venais travailler pour me le payer. Et étant jeune, j'ai vécu dans un quartier, on va dire, assez paisible, au bord de la plage. Et dans ce quartier, comment on dit
Ouais, dans ce voisinage, c'est ouais, l'environnement dans lequel tu as grandi.
Exactement. Et un peu un quartier bourgeois, on va dire. Et j'étais la seule famille maghrébine, même seule famille africaine des alentours. Et des fois, moi, j'aimais bien jouer à la PlayStation parce que c'était mon seul ami. J'avais pas beaucoup d'amis à l'école. Souvent, les parents... disaient à leur enfant, ne reste pas avec les Arabes. J'ai même une anecdote, un ami de classe qui s'appelle Vincent, qui m'avait dit, ma maman, elle ne veut pas que je reste avec toi, elle ne veut pas que je reste avec les Arabes. Ça m'a beaucoup touché. Je me sentais vraiment à l'écart. J'ai essayé même de ne pas bronzer durant l'été pour ne pas être trop foncé. À l'école, en salle de classe... Les premiers jours, j'avais un peu honte de mon nom de famille. Je m'appelle Bagdad. C'est pas un surnom. Depuis tout petit, on me dit ouais, t'as ton surnom, ton nom de combattant. Non, non, c'est mon vrai nom de famille. Et j'avais peur quand on faisait l'appel et quand on m'a annoncé Mehdi Bagdad et tout le monde se retournait, me regardait et tous s'y rigolaient. Et de temps en temps, il y avait même les profs qui rigolaient parce que c'était plus fort qu'eux. Et donc voilà, je me suis senti vraiment mis à l'écart et j'ai toujours voulu. Je baissais pas les yeux et je voulais toujours me battre. Donc j'ai toujours, à chaque fois que quelqu'un rigolait de moi, je le frappais. Même petit, j'ai toujours été la personne qui attendait tout le monde à la sortie. Donc j'ai toujours aimé la bagarre, j'ai toujours voulu me battre à cause de ça. Quand tu nais avec un nom Bagdad, c'est un nom de guerre. Donc je pense que t'es prêt à aller à la guerre en fait.
Et puis tu me dis si je me trompe, mais tu vois même... J'imagine, tu vois, juste, enfin, dans ta manière de voir les choses, peut-être à l'époque, vu que de toute façon, personne ne voulait être ami avec toi, que de toute façon tout le monde se moque, que tout le monde rigole dès qu'ils entendent ton nom et que donc personne ne veut jouer avec toi, personne ne veut parler avec toi, etc. Mais en fait, j'imagine, tu me dis si je me trompe, mais qu'en fait, du coup, le seul moyen finalement d'avoir un peu d'attention, et humainement on en a besoin, c'est comme de la nourriture, d'avoir l'attention des autres. En fait, du coup, vaut mieux de l'attention négative que pas d'attention du tout, et que c'est probablement ça qui te venait à l'esprit aussi.
Exactement, exactement. Et j'ai eu la chance quand même de rencontrer une famille qui était d'origine algérienne, des juifs algériens. C'était la seule famille, il s'appelait Jérémy Sebaoun, je me rappelle, qui m'invitait à ses anniversaires. C'était le seul qui m'invitait vraiment à ses anniversaires, et je le remercie encore parce que ça me touche encore jusqu'à aujourd'hui, parce que pour moi, voilà, quelqu'un, quand on m'invitait à un anniversaire, j'étais vraiment content, j'étais vraiment sans amis. Quand ma mère, elle me faisait sortir, aller, va te promener dans le quartier, parce qu'elle en avait marre que je reste à la maison. Et même dans le quartier, quand je promenais, t'avais les voisins qui regardaient à droite à gauche, qu'est-ce qu'il fait là, ce petit maghrébin? Ils pensaient que je venais pister les maisons. Et souvent, on me disait, qu'est-ce que tu fais là? Rien, après, j'avais pas un très bon vocabulaire à l'époque. Ta mère, voilà.
Ouais, tu répondais parce que.
J'avais
ouais.
5-6 mots et je faisais une phrase avec. Hein. Et voilà, mais si tu pars pas, on appelle la police. Donc, ou ils me couraient après, ou ils appellent la police. Et la police est venue plus de 11 fois.
Alors que tu étais dans ton quartier, littéralement.
J'habitais à 3 pâtés de maison à côté. Mais voilà, je leur disais pas que j'habitais là. Je joue aussi dans le jeu. Je leur dis pas, j'habite à côté, vous inquiétez pas.
Ouais, t'avais pas envie de t'écraser non plus.
Voilà, et j'attendais la police. Oui, bonjour. La première fois, c'était j'avais 12 ans. Bonjour, vous avez une pièce d'identité. Qu'est-ce que vous faites là? Rien, je joue. Et je disais la vérité, je joue. Je disais pas, rien, j'habite là. Je joue. Ok, pièce d'identité. Et moi, à l'époque, je connaissais un petit peu. On n'a pas à avoir une pièce d'identité à 12 ans. C'est à partir de 14 ans. Je fais, j'ai pas de pièce d'identité, c'est pas obligatoire d'avoir une pièce d'identité à 12 ans. Ok, ok. Quelque chose de dangereux sur vous? Non, j'ai 12 ans. Ok, mettez les mains sur le capot. Et moi, comme tu viens de dire, j'ai gagné un truc, tu vois, j'étais content.
Ouais, on s'intéressait à toi.
Voilà, on s'intéressait à moi. Tu voyais le voisin, il était là, il rigolait, il était content et tout. Et voilà, menottes au poignet, à l'âge de 12 ans. Et quand on m'a mis les menottes au poignet, j'étais content, et d'un autre côté, j'ai senti de la tristesse. Et j'ai pleuré à l'intérieur, pour ne pas montrer aux voisins et à la police. Et voilà, on me fait rentrer dans la voiture ou dans le fourgon, parce que je me suis fait embarquer 11 fois devant chez moi.
Et à chaque fois, pour ces raisons-là, où en gros, tu as des gens qui venaient, qui disaient « qu'est-ce que vous foutez
là ?» Ouais. En plus, j'avais une tête, j'avais les cheveux longs, je ressemblais à un gitan arabe. C'était voilà. Et souvent, la police me ramenait à la cité d'à côté, de la ville d'à côté. Pas dans les HLM de ma ville. Il y avait des petits HLM où il y avait quelques maghrébins. Mais ils me ramenaient carrément dans la ville d'à côté, où il y a une des plus grandes cités du Var, qui s'appelle la Cité Berthe, à la Seyne-sur-Mer. Et ils me disaient carrément, la première fois qu'ils m'ont embarqué, ils m'ont dit t'habites où maintenant? J'habite où maintenant? Mais on va pas au commissariat? Non, non, on te ramène chez toi. Et qui, je vous ai pas dit, j'habitais là, moi. T'habites où? Mais j'habite où? On m'a embarqué. Quoi? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Mais tu m'as pas demandé. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu fais là? Je fais là, je joue. Si c'est pas vrai, tu vas dormir au poste. Nanana, nanana. Ok. On arrive là-bas, et ils voient sur la boîte aux lettres, Bagdad. Pas 30 000 Bagdad. Hein. Et là, ben, ils m'enlèvent les menottes et ils me laissent partir. Et alors, 11 fois, sur les 11 fois, on m'a ramené chez moi 9 fois, et 2 fois, on m'a laissé devant la cité Berthe.
Et du coup, et tu me disais aussi que, en fait, ce qui était délicat, c'est que ben, quand tu étais dans ton environnement, là où tu as grandi, c'est-à-dire dans cet endroit de la ville où c'est un peu plus huppé, etc., mais où, en gros, tous les voisins te considèrent comme « Ok, c'est pas normal, ils préparent un truc », ou alors ils pensent même que tu n'habites pas là. Mais tu me disais aussi que là où c'est délicat, c'est que quand tu allais dans des cités aussi, bah là-bas, on te considérait par contre comme un bourgeois. Et donc en fait, où que t'ailles,
t'avais pas ma place.
T'avais pas ta place.
C'est comme le français d'origine maghrébine, quand il va au bled, c'est pas un Algérien. Et quand il retourne en France, c'est pas un Français. Et moi, c'était ça la première fois que j'arrive dans les quartiers parce que je voulais rejoindre mes semblables et j'avais plus ma place. Et moi, la première fois que j'arrive dans la cité, j'étais heureux. Je voyais mes semblables, je voyais des maghrébins, je voyais des blacks. Et les parents, ils étaient contents de me voir. Alors, tu viens d'où? Ah, t'habites là? Ah, c'est bien. Tu veux manger? Tu veux manger quoi? Oh, les parents, ils m'aiment bien. Tu viens pour l'anniversaire de Mohamed? Tu viens l'anniversaire pour David? Tu viens l'anniversaire de Jean-Michel? Parce qu'il y a beaucoup de mandjak chez moi, des Sénégalais chrétiens. J'ai beaucoup grandi avec les mandjaks, grosse communauté mandjak dans mon quartier. Et voilà, j'étais waouh! Ils m'invitent chez eux. J'étais content de jouer au foot avec eux dans la rue. Dans la rue, on était contents. Et je disais, putain, il n'y a pas de racisme ici, en fait. Ils sont là à dire, ouais, les racistes. Non, vous n'avez pas de racisme, les gars, vous. Quand vous rentrez chez vous, tu vas à ta boulangerie, la boulangère ne te regarde pas de travers. Tu vas à ton alimentation acheter le café pour ta mère. L'alimentaire, il ne te regarde pas de travers. Moi, je vais à Champion ou n'importe où acheter des trucs pour ma mère. Il y a le vigile qui me suit de A à Z à la fin. Une fois, je suis venu pour... Ma mère m'a déposé devant le magasin pour acheter un cadeau de la fête des pères. Le vigile nous a suivi du début jusqu'à la fin. Il nous a forcé à acheter ce cadeau et ce cadeau. On n'avait pas le choix. Il fallait... sortez, allez. Toi et moi, il m'a acheté des paquets de cure-dents, un peu jolis, et mon frère, une mousse à raser. Vous sortez, allez maintenant, c'est moi, vous avez votre cadeau.
Wow.
Et pareil, hein, l'école où ça m'a beaucoup aussi touché, et j'ai dit là, ma vie, elle est foutue, c'est les stages d'école hein, en sixième. Et les stages d'école en sixième, il fallait trouver un stage dans un magasin. Et je me rappelle, j'ai fait exactement 150 magasins. On me disait de laisser CV et lettre de motivation. J'avais 14 ans. Et je vais mettre quoi dans mon CV ? J'ai gagné, j'ai fini le jeu sur Nintendo. Eh bien, on ne m'a jamais appelé. Et il y avait un gros centre commercial qui était dans la ville d'à côté, qui était en face de la cité. Et je suis allé pour demander de faire un stage. Non, on prend que les mecs de la cité. Je fais quoi, moi? Donc, qu'est-ce que je fais? J'allais travailler sur les marchés. Et même les profs, ils me disaient, on ne veut pas que tu travailles sur les marchés. On veut que tu travailles dans un magasin. Il n'y a personne qui me veut dans les magasins. Et voilà, et les marchés... J'ai envie d'en parler parce que c'est un endroit où j'ai vraiment appris la vie, appris à connaître les gens, appris à connaître la valeur de l'argent, appris le business. Et le marché, c'est magnifique parce que c'est multipote. Tu as le Sénégalais, le Vietnamien, le Gitan, l'Espagnol, le vendeur de matelas, ouais, le Gitan, l'Algérien, le Tunisien, le Marocain, le Juif. Et tout le monde, on est tous amis. Combien t'as fait? Ça fait travailler? Ouais, je t'ai ramené un client, hein, tu vois. Et en fait, grâce à ça, j'ai pas pu être raciste comme eux. À être, ouais, bon, ils m'ont fait ça, ben moi, je vais être raciste contre les Blancs. Non, non. Moi, je voyais quand j'allais au marché, le marché, c'était un autre monde. Donc, je me dis, en fait, il y a deux mondes, en fait. Tu vois. Donc, ça m'a un peu apaisé, on va dire. Mais j'avais cette haine, je n'aimais pas l'école, parce que j'aime pas qu'on me force à faire quelque chose. Pour moi, un enfant, c'est pas un vase qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume. Y a des enfants qui chaussent du 43 et des enfants qui chaussent du 42. Tu vas pas me donner la paire de chaussures de l'enfant qui chausse du 42, du 43, et moi je fais du 42, elle va m'aller trop grande. L'école, c'est ça. Il y en a, le cerveau, il n'est pas pareil. Il y en a, un exercice, ils mettent 1h10 à le faire, pas 1 heure. Alors, le petit, tu lui donnes un exercice, il doit faire, il met 1h15 à la base pour le faire, et en fait, 1 heure, il n'a pas eu le temps, et tu vas lui mettre 8 sur 20, et en fait, il peut avoir 19 sur 20. Et il manque une chance... Et de diplômes, parce que tout est sur les diplômes en France. Et voilà, et en fait, moi à 14 ans, j'étais nul à l'école, je n'aimais pas l'école. Donc je me suis retrouvé très tôt à faire des CAP. Je me suis retrouvé très tôt, à l'âge de 16 ans, à être sur un chantier, en train d'être manœuvre. Parce que même pas maçon, parce qu'on ne m'apprenait même pas. Parce que sur les CAP, on ne t'apprend pas, on t'utilise en tant que manœuvre. Et je voyais, je me rappelle, je voyais mes amis qui allaient à l'université. Et moi, j'avais 16 ans, je me cachais. Parce que je les voyais partir avec des filles à l'université. Moi, je me cachais parce que j'étais en bleu de travail, je puais. J'étais avec des gars qui ressemblaient à rien. Et je dis, je veux pas être comme eux, moi, dans ma vie. C'est pas ça, ma vie. Et un jour, là, je tombe. C'était le 11 septembre 2001. Et là, attentat. Ils nous montrent en boucle, en plus en boucle. S'ils ne nous auraient pas montré en boucle à la télé, peut-être que je ne l'aurais pas vu arriver, lui. Et en boucle, tu changes de chaîne, encore le même. Et voilà, et je regarde. En fait, je suis là. C'est qui, lui? Oh, il fait la guerre contre les États-Unis. Il fait la guerre contre le... Il se sent pas bien comme moi. En fait, il est tout comme moi, ce mec. Je vais faire ça, en fait. Ah ouais, je vais tous les buter. J'ai vu une revanche. J'ai vu une revanche en moi. J'ai dit, waouh, je vais faire ça. Allez. Et il n'y avait aucun islam, il n'y avait rien. C'est pour ça que il y en a beaucoup qui disent, ils essaient de mettre islam et terrorisme. Mais en fait, ceux qui pensent que islam et terrorisme, c'est la même chose, eh bien, ils pensent la même chose que les terroristes. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, moi, je pense que ceux qui veulent aller faire ces choses-là, c'est des mecs qui sont perdus. C'est un mec qui sort de prison, il est rentré à l'âge de 18 ans, il a fait un an de prison, il sort, il dit, je vais faire quoi de ma vie? Personne ne va me prendre en travail, j'ai fait un an de prison, j'ai pas de diplôme, foutu pour foutu, ben je vais me foutre en l'air. En fait. C'est comme ça qu'ils réagissent. Et en fait, j'ai envie de donner à cette jeunesse qui est perdue qu'il y a des solutions. On peut devenir ce qu'on veut à n'importe quel âge. J'ai un ami là, qui s'appelle Vincent, qui est parti au Brésil à l'âge de 34 ans avec un bac. Et pour rester, il a fait un visa étudiant en droit de 5 ans. 5 ans plus tard, il vient d'avoir son diplôme pour être avocat au barreau de Rio. À 34 ans. Et toi, tu me dis, en France, à 14 ans, 15 ans, tu ne peux pas être avocat, tu ne peux pas être juge, tu ne peux pas être ce que tu veux. Tu peux être ce que tu veux. Si demain, un jeune là qui m'écoute, il a 18 ans, 19 ans, il veut être avocat, eh bien, il se met au boulot, il lit ses 3 ou 4 ou 5 codes pénales, et il se met à fond dedans, il fait des cours d'acting, il fait des cours d'acting pour pouvoir bien s'exprimer, et il deviendra avocat dans 5, 6, 8, même 10 ans. T'as 18 ans, 10 ans d'études sans école, t'as 28 ans, tu commences à être avocat à 28 ans. Wow. 28 ans jusqu'à l'âge de 65 ans.
Et ça, c'est un truc, on en parlait un petit peu avant, qui m'a un peu frappé, effectivement. C'est en fait, tu dis, mais en plus, ce qui est énervant ou frustrant, ou quel que soit le mot, tu vois, c'est que quand t'étais jeune, t'avais aucun exemple, en fait, de personne, ou en tout cas qui te ressemblait, ou auquel tu pouvais t'identifier, qui faisait des métiers stylés, genre, effectivement, juge ou avocat, ou enfin des trucs, des professions où tu te dis, ok. Il est comme moi, il fait des professions ultra classe, il gagne bien sa vie, c'est intellectuel, c'est stylé. Et en fait, alors tu me dis, je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou pas, c'est peut-être un peu plus tard ou pas, mais tu dis, bah, et c'est ça qui est chiant, c'est que moi, tous les modèles que j'avais, bah, c'était soit de nique la police, soit c'est des modèles où c'est plutôt stylé d'être en résistance par rapport à, plutôt que de viser haut dans des professions qui sont un peu plus... Je sais pas quel est le terme, tu vois, mais et tu disais, bah, y a notamment un moment donné où tu as vu à la télé, c'était un homme dont j'ai oublié le nom, qui était en débat face à, du coup, Éric Zemmour et Eric Nolo, et qui arrivait, il te ressemblait, c'était un maghrébin, exactement. Et il avait une diction parfaite, intellectuelle, enfin, tu sens... Chouille, voilà.
Qui a sorti son livre, L'avocat à battre. En fait, moi, étant jeune, je voyais quoi à la télé? Je voyais les films de cité. Il y avait Ma cité va craquer, La haine, avec Saïd Tagmaoui, Rai. Et c'était les images qu'on me donnait. Pareil, le rap. Le rap, ils font l'air beaucoup de jeunes. Parce qu'ils écoutent les paroles, ils veulent être comme eux. Ils voient les caisses. Je veux la même caisse, je veux la même femme. On leur montre des mauvaises images, en fait. Et on leur montre jamais des maghrébins avocats, juges. Ou même dans les films. Dans les films, on est toujours la même chose. Toujours la même chose. Et moi, ce jour-là, j'ai lu mon premier livre à l'âge de 24 ans. Et je tombe sur une émission sur Canal+, Karim Achoui. Je vois un franco-algérien, maghrébin, on va dire, parce qu'on est tous pareils. Et en costume, classe, avec une élocution extraordinaire. Et il remet en place Éric Zemmour et Éric Nolot. Et je l'écoute parler. Et j'ai dit, c'est extraordinaire. Et il sort une phrase qui m'est marquée à la place qui est la vôtre. Vous avez raison de jouer les professeurs de morale. Il dit, non, laissez-moi poursuivre au moins, puisque vous avez eu l'indélicatesse d'être non seulement discourtois, dirimant, mais diffamant. J'ai pris un cahier, j'ai tout noté. Ça veut dire quoi, ça, diffamant dirimant. J'ai tout noté, et j'ai dit, waouh, je veux parler comme lui. Et j'ai dit, mais pour parler comme lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire des livres. Donc j'ai commencé à prendre des livres. Je me rappelle les premières pages, sur 30 mots, il y avait 30 mots que je connaissais. Sur une page, il y avait au moins 30 mots que je connaissais pas. Donc j'écrivais la signification, j'apprenais. Et un jour, je suis tombé sur un livre, et c'est ce livre qui m'a fait tilter. C'était « Il faut être intelligent pour comprendre qu'on est bête ». Et en fait, c'est ce jour-là, j'ai 24 ans, je disais à ma petite sœur, « Chira, tu peux me faire un post ?» Parce que j'étais combattant des MMA. Et je « Tu peux me faire un post sur Instagram ?» Mais ça. Un post, je savais pas écrire un post. Je dis, oh, c'est grave. Et maintenant, voilà, j'aime lire, j'aime la littérature française. Je lisais un livre par mois, et maintenant, grâce à Dieu, j'en lis 3 ou 4 par mois. Et ça m'a beaucoup... J'ai appris tout seul, en fait. J'ai appris tout seul. Et en revenant de cette idée folle que je voulais aller
dont on va reparler, parce qu'en
Afghanistan, j'en parlais à ma mère. Hein. « Mais t'es malade, tu fais pas ça !» Et je dis, non, mais je vais y aller. Je vais en Afghanistan. J'en ai rien à foutre. C'est ça que je veux faire. À 18 ans, je pars en Afghanistan. Je regardais des trucs sur Internet. Mais je regarde même pas de la religion. Parce qu'il n'y a pas de religion. Il n'y a rien à voir avec la religion, en fait. Et je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je rencontrais personne. Je voulais faire que ça. Et personne.
Et à ce moment-là, c'est là où tu as 15 ans à ce moment-là. Et c'est 15-16 ans. Et c'est à ce moment-là où tu étais. Au plus fort des années que tu avais vécu, où tu te sentais seul, tu étais à ta place nulle part, de toute façon personne te considère, etc. Tu te dis que tu n'as pas de futur parce que, enfin, tout ça. Et c'est à ce moment-là justement où tu es au plus fort de toutes ces pensées-là et que tu te dis, ouais, c'est bon, c'est là où tu étais sûr, ok, je vais y aller.
Exactement. Et comme on dit, l'exclusion exacerbe les susceptibilités. Les susceptibilités rejoignent la frustration. La frustration engendre la haine. Et la haine, elle mène à la violence. Et en fait, c'est ça. Ça m'a mené à la violence et je voulais sortir toute cette violence. Et un jour, par hasard, il n'y a jamais d'hasard, hein, c'est le destin, c'est le bon Dieu qui l'a vu, qu'il voulait me sauver. Et il m'a fait rentrer dans cette boutique et je suis tombé sur un DVD. Et je tombe sur le DVD du Pride, qui est l'UFC maintenant. Et je regarde le DVD et je vois les combattants qui se mettent des coups de pied dans la tête et des bras dans la... J'ai dit, waouh, mais c'est quoi ce sport? Et je vois des salles de 80 000, des Tokyo Dome, des 100 000 personnes, tout le monde se fait acclamer, même le mec a perdu, il se fait acclamer, tout le monde c'est des dieux avec des gros chèques. J'ai dit, waouh, mais c'est quoi ça? Je veux faire ça. Et d'un coup, l'Afghanistan, tout ça, c'est parti. En même pas 30 secondes, il n'y a pas de peut-être, fais voir, non, c'est parti, j'ai tout oublié, et j'ai dit c'est ça que je veux faire, et je voyais tous les mecs, from Brazil, Wanderlei Silva, and from Brazil, Minotaurs, j'ai dit waouh, ils viennent tous du Brésil les mecs, et je suis parti au Brésil, allez, et j'ai travaillé sur les chantiers, je travaillais aussi sur les marchés, j'ai mis pas mal d'argent de côté, et sans adresse, sans amis, sans rien du tout, je prends mon billet et je pars au Brésil. Mais pas d'adresse pour s'entraîner, pas d'adresse pour rien. Mais quand je dis rien, c'est un sac à dos et je pars en direction Brésil. Et même ma mère était contente.
Parce qu'au moins, tu n'allais pas en Afghanistan.
Au moins, je pars plus en Afghanistan. J'ai plus cette idée folle de partir en Afghanistan. Et elle me dit, bon, débarras, pars. Reste longtemps au Brésil. Carrément. Et même mes potes disent, t'as pas peur de partir au Brésil tout seul? Je fais, oh les gars, moi là-bas, je voulais en Afghanistan. Faut que la peur. J'ai pas de peur. Donc je pars là-bas, sans adresse et tout. Bon. Et un jour, je rencontre dans un McDonald's, je me rappelle. J'avais un short de boxe taille. Je m'entraînais dans une salle, Fernando, je sais pas quoi, là, sur Copa. Et dans une salle, je rencontre Gilles Arsène, que j'avais vu en DVD, avec Florent Lucioni, je me rappelle, à l'époque, qui était ceinture bleue, et Gilles Arsène était ceinture violette. Et je fais, excusez-moi, vous êtes français ? Ouais. Gilles Arsène ?
Ouais, ouais. Il était content. Et...
Putain, je vous ai vu en DVD. Et moi, j'étais heureux d'avoir vu un français qui était au Pride.
Ouais.
C'est... Moi, c'est en fait, fou, ouais. Je voyais... Parce qu'il y en a qui disent, ouais, il a perdu. Non, 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 je vois pas ça, moi. Moi, je vois, il allait au Pride.
Ouais.
Wow. Il est allé au Pride, je m'en fous de... Pour moi, c'était... Waouh. Franchement, félicitations, t'es allé au Pride, mec. Tu vois. Et mon rêve, c'est de faire ça, moi. C'est d'aller au Pride, comme toi. Donc, t'as accompli mon rêve. Donc, voilà, et il m'amène, on va chez De La Riva, où il s'entraînait, c'est mieux cette salle, tu comprends. Et là, je rencontre... un Français qui galérait, qui était là pour essayer de donner des cours de Muay Thai, Daniel Vorin. Et là, le coup de foudre, qui devient mon entraîneur, mon grand frère et mon père, qui m'a tout appris. Mais vraiment, qui m'a vraiment tout appris. Il m'a même appris à draguer les filles, pour te dire. Et à bien se comporter dans la vie, parce que j'étais un peu bruge, des tout le monde de travers. Il m'a calmé, il m'a appris à danser, il m'a... Il m'a entraîné plus techniquement, parce que moi j'étais un gros bagarreur, j'aimais la bagarre, vraiment. Et lui, il m'a appris les techniques, et c'est lui voilà, qui m'a accompagné du début jusqu'à la fin. C'est lui qui m'a créé, en fait. On rend à César ce qui est à César. Et c'est lui qui m'a amené jusqu'à la fin, qui m'a ramené à l'UFC. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Lui, il s'entraînait dans... Il a été un peu mis de partout dans toutes les teams. Il se servait de lui, il jetait. Et c'est comme ça que ça se passait. Et en fait, à chaque fois que je revenais, il s'entraînait dans une nouvelle team. Et moi, je venais. Et quand je revenais, Mehdi, sparring. Et je devais affronter des mecs. Voilà. À l'époque, on avait une mauvaise réputation des Français quand on arrivait au Brésil. Et moi, j'allais grosse guerre. Au Muay Thai, hein. C'était plus Muay Thai. Et même les mecs, ils disaient, oh, doucement, hein. Sinon, au sol, on te casse le pied. Je me rappelle, à l'RFT, ils me disaient ça, les chocolats, les trucs comme ça. Et voilà, et j'ai pris de l'expérience, je me suis beaucoup entraîné. Et un jour, Daniel me dit de combattre en kickboxing. Je fais mon premier combat de kickboxing à Lapa, dans le quartier de Lapa, qui est un quartier, qui est un quartier un peu festif. Un peu dangereux le soir, et je combat là-bas, et je gagne mon premier combat contre le champion de kickboxing de Rio. C'était mon premier combat de tout. Et je gagne, et j'étais tellement heureux qu'après je fais une petite danse et tout, et les mecs ils prennent mal, il y avait des mecs armés et tout à l'intérieur. Et là il y avait mon prof Daniel, il y a Cromad, qui était mon prof aussi. Prends Mehdi et cassez-vous dans le taxi. Je suis monté avec mon short de boxe taille, torse nu dans le.
Parce que si tu restais, ça aurait.
Ça sentait mauvais.
Ouais.
Ça sentait mauvais. Parce que j'ai fait une petite danse à la fin et.
Ils n'ont pas kiffé la provocation, quoi.
Et j'ai toujours cette image, hein, on peut le voir, hein, si ceux qui vont à la paille le voient, c'est un endroit miteux et il y avait une petite ampoule. Et j'ai combattu. Et même pendant l'événement, le ring, il s'est cassé.
Quoi ?
Donc on a attendu plus de 2 heures pour qu'ils remettent le ring et que je fasse le combat de la soirée.
Pour la salle en carton.
Une salle en carton, ouais, c'était énorme. Et je peux le dire que moi j'ai été... je suis né en France en tant qu'homme et en tant que combattant j'ai été né au Brésil. Je me suis recréé au Brésil en fait. En France j'étais dans le noir. Sombre, dans l'endroit sombre. Et en fait, je pensais que j'étais enterré vivant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas enterré vivant. Des fois, on pense qu'on est enterré vivant, on est dans le noir, on est dans un endroit sombre. Et en fait, on regarde, en fait, on est en train de pousser, en fait. On est en train d'être planté, replanté, en fait. En fait, j'étais pas enterré, en fait. En fait, des fois, on pense qu'on est mort, on est enterré vivant, mais en fait, non. On est planté pour faire un nouvel arbre ou une nouvelle fleur. En fait, c'est comme ça que j'ai vu la chose. Et quand j'arrive au Brésil, je me rappelle, je dis, ouais, je suis français. Oh, j'adore le français, ben ça va. Il n'y a pas de... Ah, mais Tu vois pas ma tête? Je m'appelle Bagdad. Ils disent même pas que t'appelles Bagdad. Ils regardent même pas ta tête. C'était, t'es français. Ouais, je vous aime bien. Ouais, ouais. Ils m'aimaient. Et c'est la première fois qu'on m'aimait. Je me sentis aimé dans un pays. Et c'est pour ça que j'y vais souvent. J'y vais même maintenant parce que je fais beaucoup de business là-bas. Et je me sens aimé là-bas. Tandis qu'en France, je me suis pas senti aimé. Je me suis senti détesté. J'ai pas eu ma place en France. En fait. Et c'est pour ça que voilà, le MMA m'a sauvé de ça. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un deuxième combat. Mon deuxième combat, je me suis retrouvé dans le plus grand tournoi de kickboxing du Brésil. On avait menti sur mon record. On avait dit que j'avais 16 combats, 16 victoires. J'en avais qu'un. Et je me retrouve avec des mecs qui ont plus de 40, 50 combats. Je me rappelle, je joue au jeu vidéo K1 World Max. Et il y avait un combattant brésilien là-dedans qui s'appelait Marfio Canoletti. Il avait le tatouage derrière K1 World Max. Et je le retrouve dans le tournoi. Je dis, putain. Et Daniel dit, t'es prêt, t'inquiète pas. Ok, on fout, moi, j'y vais. Moi, de toute façon, je suis guéri, il n'y a pas de... Tu vois. Et c'est marrant parce que pour s'entraîner avec Daniel, il faut vraiment être un guerrier. Et c'est marrant parce que maintenant, je le vois, il entraîne un mec comme Benoît Saint-Denis, c'est ça?
Ouais.
C'est un guerrier.
Ouais.
Donc, il faut être guerrier pour être avec Daniel. Si t'es pas guerrier, laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire? Et regarde, je me retrouve dans un tournoi comme ça. Oh, non, tu flippes. Et là, voilà, il y a pas de... Il faut pas flipper. Hein. Et en plus, il lui dit, hein, tu flippes? Non, non, je ne flippe pas. Hein. Je ne veux pas. Hein. Et toi, t'inquiète pas. Ok. Et je me retrouve au premier combat, je gagne à décision, gros combat, gros, dur, dur combat, contre un mec qui avait plus de 38 combats. Et deuxième combat, j'affronte Enson Barboza. Et qui était une légende du kickboxing.
Déjà, ouais, à l'époque. Ouais. À l'époque. Avant d'être à l'UFC, ouais, ouais. Les gens le savent pas. Ouais.
Il avait 46 combats. Et je l'affronte. Je me rappelle, il y avait Victor Belfort dans mon coin. Et je l'affronte. Et on fait un gros combat, une grosse guerre. Je me rappelle, il m'a massacré les jambes. Et je n'ai pas marché pendant une semaine après le combat. Pour te dire, mal de jambes. Mais voilà, j'avais fait un beau combat, j'avais bien touché au deuxième round, et je perds à la décision. Et il gagne le combat. Mais une belle expérience, tu vois. Un mec qui a 46 combats, oh. Moi, j'en ai 3, parce qu'il y en a un que j'ai fait il y a 30 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Et après, bon, voilà, tout se passe et tout. Je reviens encore au Brésil et je reviens avec je rencontre un Français franco-algérien qui est Mohamed Kacha. Pour moi, Mohamed Kacha, j'ai pas été fan de beaucoup de mecs. J'étais fan de Dan Anderson et j'étais fan de Mohamed Kacha. J'étais fan de ce mec. Je l'adorais. C'était un guerrier. Il me faisait penser à Mike Tyson en MMA, ce mec. Tout le monde le connaît dans les années 2002, 2003, 2004, 2010. Tout le monde le connaît en tant que brut, méchant. Et j'adorais ce mec. On se faisait des sparring. Des fois, on allait à la salle, lui et moi. Et on fait une technique. Ouais, technique.
Ouais, t'inquiète.
Et on arrivait. Et les Brésiliens nous regardaient comme ça. C'est des ouf, mais c'est des potes. Ils s'embrassent et tout. Et on sent, lui, le nez. Et il saignait, moi, la bouche, en sang. Et on repartait. Tu vois, les Brésiliens nous regardaient, mais c'est des ouf ces mecs-là. Et je me rappelle, à la Black House, on était à la Black House, lui et moi, et Daniel, tous les combattants brésiliens qui venaient à la Black House de Curitiba, de Sao Paulo, de tous les endroits, ils devaient faire un test pour rentrer à la Black House. Et le test, c'était sparring avec Mohamed ou sparring avec moi. Ouf, en pied-point.
Ah, vous étiez devenu le test d'entrée à la Black House.
On était le test d'entrée et à la base, les Français, ils avaient une réputation de playboy, on va les dire, voilà, c'est les Français, ouais. On est de la merde. Et nous, on leur a montré que, voilà, nous, on était dans une maison, on était nourris, logés, blanchis, avec 15 combattants, on était dans la plus belle chambre. Les Brésiliens, ils venaient, ils disaient, qu'est-ce qu'ils font ces Français, là, ces gringos, dans la meilleure chambre, tu verras demain. Et ils arrivaient à l'entraînement, on les défonçait. Et c'est peur de nous. Et on faisait les tests. On s'est retrouvé avec des mecs, je me rappelle, des poids lourds. Daniel me dit, prends-lui là. Hein? C'est un peu lourd le mec. T'inquiète. C'est des mecs de jiu-jitsu, tu les défonces. Je me suis retrouvé à me tabasser avec des mecs là. Et pareil avec Mohamed. Je me rappelle, on faisait des sparring avec Victor Belfort, Anderson Silva. Des gros, gros sparring. C'était énorme. C'était énorme. C'était une belle expérience, surtout que Anderson Silva était champion de l'UFC. Et nous, on était ses sparring, mais sparring caché. Il ne nous montrait pas beaucoup à la télé, tu vois. Et Daniel, tout le temps, dès qu'il voyait l'UFC, il disait « Mehdi, fais sparring avec lui. Mohamed, fais sparring. » Non, et eux disaient « Non, non, pas eux. Mais un autre. »
Et c'est parce qu'on avait mauvaise réputation et que c'était pas bien vu d'être affiché avec des Français
Non, non, parce que nous, on les défonçait.
Et moi, d'accord. Ah oui, c'est parce que sinon, c'était pas bon pour
eux. Ah ouais, ouais. Nous, en fait, Anderson Silva, faut dire que c'est une légende dans le combat. Dans le cage, c'est une autre personne. Mais en combat ou en sparring, tu te dis, oh putain, j'ai le niveau d'Anderson Silva, en fait. Mais après, tu te retrouves dans la classe contre John McDessie, tu te dis, putain, en fait, je suis pas le niveau d'Anderson Silva.
Ok, ouais, ça c'est ouf. Ouais, des gens qui, à l'entraînement, soit ils y vont plus tranquilles, soit c'est pas là qu'ils se révèlent. Mais en combat, par contre, les mecs se transcendent, en fait.
Exactement. Et c'est ça, Anderson Silva,
okay.
Exceptionnel d'Anderson Silva, ouais. Et alors, ça se passe. On a nourri logé blanchi. Un jour, il y a un Italien qui combat avec un autre sponsor. Et il utilise la maison. Et le sponsor, c'était Vitamin Mineralize. Et il voit ça, il voit la télé, au Fury, il dit « Attends, 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 il a pas combattu pour le sponsor, là. » Et il pète un câble, il fait sortir tout le monde de la maison. Sortez tous. Et tout le monde rentre, Curitiba, Sao Paulo, voilà. Et il reste Mohamed et moi. Et nous, le premier jour, on est choqués, merde, qu'est-ce qu'on fait? On appelle Air France, urgence, on doit rentrer. Ah non, c'est booké pendant un mois. Rappelez, demain. Peut-être qu'il y a une place qui va se libérer. On appelait tous les jours. Il n'y a eu aucune place. Qu'est-ce qu'on fait? Premier jour, on dort dans la rue. Mohamed, il avait 50 réals. Je me rappelle. Moi, j'avais rien. Mais je me rappelle, Mohamed, il prenait deux cochinas, de la viande avec de la pomme de terre. Et moi, il m'en donnait une. Je fais, vas-y, partage. On s'embrouille pour de la bouffe. et je me rappelle, voilà. Et en plus, moi, j'aimais la fête. Même si j'avais pas d'argent, j'adorais la fête. Et des fois, le soir, je disais, Mohamed, viens, on sort. Mais dis, pense à demain, qu'est-ce qu'on va faire demain? Toi, t'es là tout le temps, tu penses la fête. Tu sais même pas où on va dormir et tout. T'inquiète, on trouve. On allait dans les ballets funk, je rencontrais les filles. Ouais, là, on est français, je suis, oh, on est français. Et un peu dans les favelas où on allait, on a la Cité des Dieux. Cité des Dieux, moi je l'avais vu en film. Une fois, je me retrouvais dans les endroits, j'étais à la Cité des Dieux, en train de danser avec des meufs. Et les meufs font, ouais, non, non, et t'habites où? Je suis à la rue. Quoi? On m'a volé tout, on m'a tout volé. Et moi et mon pote, on est là, mais dormez chez moi. Oh putain, bon plan. Et moi, je dis, putain, bon plan, je vais dormir chez la meuf, tu vois. Et dans l'arrivée, en fait, il y avait 14 personnes dans la maison. C'était à deux pièces. Le soir, le matin, les parents, ils essayaient de pas nous marcher dessus.
Ah ouais, ça veut dire qu'en gros, elle vous invitait chez eux, chez elle, parce qu'elle voulait vous aider, etc. Exactement. Mais elle-même était en gros dans la misère des favelas.
Exactement, exactement. Et moi, je pensais, wow, bon plan, on va dormir chez la meuf. Ouais. Et voilà, bon, il y a eu quelques fois, on dormait chez les meufs. Quelques fois, il y avait un endroit un peu où il y avait des maisons, il y avait la sécurité, il y avait quelques maisons abandonnées dans la résidence. Et on attendait 2-3 heures du matin quand le vigile dormait et on allait dormir dans les maisons abandonnées. Pour avoir un endroit, parce qu'il pleut beaucoup là-bas. Et voilà, on a galéré une bonne 4-5 jours. On a pas voulu embêter Daniel, parce qu'il a ses problèmes. Il aurait pu peut-être nous dire viens manger à la maison, mais on n'a pas forcé. Et un jour, il y a notre manager, qui est Ed Suarez, et Joing, qui dit bon, je vais en aider un. Mais qu'un, je peux pas en aider plusieurs. Je paye le billet pour aller à Miami, s'entraîner à la TT.
Nourri, logé, blanchi.
Un de vous deux. Un que de vous deux. Vous devez choisir. Moi, le choix, l'est fait. C'est Mohamed Kacha.
Et parce que pour toi, en gros, il était beaucoup plus prometteur.
10 fois meilleur que moi. Pour moi, j'ai été fan de Mohamed. Pour moi, c'était une légende. Pour moi, Mohamed allait finir à l'UFC et allait être un champion de l'UFC. Parce que lui, il s'entraînait, par contre. Moi, j'ai jamais aimé m'entraîner. Je n'ai même pas m'entraîner. Et je le dis devant tout le monde, je n'ai jamais aimé m'entraîner. Daniel me disait, mais dis, tu t'es entraîné hier Ouais, ouais, je me suis entraîné avec Nino Chemri. T'es pas vrai. J'ai appelé Nino, il m'a dit que tu n'étais pas entraîné. Allez, encore 3 rounds, Daniel. Et en fait, moi, en fait, quand je m'entraîne fort, je suis malade le lendemain. Donc moi, à chaque préparation, toutes les 2 semaines, je suis malade. Et même Daniel, des fois, il me dit, on va trouver un sponsor d'une pharmacie. Parce qu'il m'a mis à la pharmacie toutes les 2 semaines. Parce que j'étais malade. Et j'ai jamais aimé m'entraîner. Moi, mon rêve, c'était d'aller à l'UFC. Mon rêve, c'est pas d'être champion. J'essaie pas d'être comme tout le monde, en fait. J'essaie pas d'être me conformer à une empreinte. Je voulais laisser la mienne. Tu vois, je veux pas. Il y en a qui me disent, ouais, mais putain, t'aurais pu quand même. Non, moi, j'ai voulu aller à l'UFC. Mon rêve, c'était aller à l'UFC. Oh, à la base, je voulais aller en Afghanistan.
Ouais, pote. C'est ça. C'est ce que t'as vu à la télé et qui t'a fait te changer d'avis et dire, non, ok, je laisse ce truc-là pour vraiment me retrouver dans des arènes où je combats devant des milliers de personnes. C'est ça que je veux. C'est pas forcément l'objectif sportif d'eux, etc. Donc, en fait, ouais, toi, ton objectif, il était clair, quoi.
Exact. Exactement. Ouais. Je voulais vraiment, voilà, mon rêve, c'était d'aller à l'UFC. Et alors, je suis encore dans la rue, dont Daniel, Mohamed part, et je me retrouve tout seul. Et qu'est-ce que je fais? J'ai l'idée, parce qu'à Copacabana, à l'époque, il y a beaucoup de Français qui venaient s'entraîner à la TT, à la BTT. Parisien Top Team, des Johnny Frachet, des Ludovic Pereira, des Norman Parisi, voilà, tout le monde venait, et il y avait beaucoup d'autres Français qu'on ne connaît pas, que je ne me rappelle plus de leur nom. Et en fait, moi, dès que je voyais des Français ou des Suisses qui parlaient français avec des t-shirts jujitsu, je suis genre, vous êtes Français? Ouais, on est Suisse, on est Belge, on est Français, ouais. Vous entraînez où? On s'entraîne à la salle là-bas, tu connais? Non, je connais pas, moi, je m'entraîne avec Anderson Silva. Mais non, ouais, sparring, ouais. Venez, quand vous voulez. Mais non, sérieux, ouais. Vous allez où, là? Là, on va s'entraîner, là. Bah, vas-y, je vais avec vous. Et en fait, je les draguais comme ça, moi, je leur vendais du rêve.
Et sachant que du coup, à ce moment-là, du coup, il n'y avait plus de Black House.
Ah, moi, je m'entraînais plus.
Ouais.
Moi, je m'entraînais plus et il fallait que je mange.
Ouais.
C'est tout. J'avais pas de sous. J'avais plus rien sur moi.
Ouais.
Et j'ai dit, bah, si je vais, il faut que j'aille voir les Français. Et voilà, et je restais avec eux. Tu fais quoi? Restez avec nous, manger. Ah ouais. J'ai pas pris les sous. En cas, demain, je vous ramène les sous. Oh, tranquille, ça va. Oui, restez une semaine, deux semaines, ils sont là, en vacances, et ils s'entraînent. Moi, j'étais là vraiment en entraînement. Je suis venu une fois. Cette fois-ci, j'étais venu avec zéro. Même ma mère, elle m'a dit, mais Mehdi, t'as mis des sous de côté? Je vois, j'ai payé le billet. Ouais, mais là-bas, je suis nourri, logé et blanchi, maman, t'inquiète. Et en fait, t'inquiète.
Ouais,
je suis dans la merde, un peu. Ouais. Tu vois? Et voilà, j'essayais de manger, j'essayais de me démerder. Et aussi, une anecdote, j'ai rencontré des prostituées qui m'ont pris avec eux, qui m'ont nourri, logé, blanchi. Elles m'ont fait ça pendant 3-4 jours. Je dormais chez eux à Copacabana. Elles m'ont aidé. Et je me suis dit, putain, et ils ont écouté mon histoire, parce que je leur ai expliqué mon histoire, tu vois, quand on rencontrait un peu de tout dans la rue, hein, tu vois. Et je leur ai expliqué maintenant, et ça leur a choqué, tu vois, et ils ont dit, waouh, si on peut t'aider, on n'a pas trop de sous, mais on peut t'aider. Et elles m'ont aidé, et je me dis, en fait, dans la rue, des fois, tu penses que lui, c'est... Tu penses à ça, ou tu penses à ci, en fait, la rue, c'est un bel endroit où tu peux rencontrer des bonnes personnes, tu vois.
Bon, paradoxalement, il y a peut-être de l'entraide plus qu'on imagine, et peut-être plus que dans d'autres milieux.
Exactement,
alors que,
ouais. Exactement. Et moi, c'est les pauvres qui m'ont le plus aidé. Hein. C'était des gens des favelas, des gens des communautés. Et pareil, comme je te dis, une prostituée qui m'ont aidé pendant 3-4 jours, nourri, logé, blanchi. Et un jour, par hasard, et comme je te dis, le hasard n'existe pas, hein, comme je retrouvais le DVD, c'est le bon Dieu qui est là, incognito, en fait. C'est ça, le hasard. Et je retrouve un ami à moi, que je faisais sparring, qui était le meilleur ami de Anderson Silva, Dandan. Et je le vois dans le supermarché, oh, ça va et tout, bien. Et il apprend que je dormais à la rue, et j'ai pas de quoi manger. Mais viens avec moi. Et il m'amène, et je me retrouve le jour au lendemain, chez Anderson Silva, dans son appartement, un des plus belles appartements de Rio, en voiture Range Rover, avec une dame qui vient tous les 3 jours nous faire à manger. Jacuzzi en haut.
Ah oui, donc c'est littéralement, tu ne pouvais pas faire plus opposé.
Pas plus.
Impossible.
Pas plus. Et là, je repars à la Black House, je m'entraîne.
Du coup, ils avaient changé de salle et ils avaient changé de...
Non, il y avait toujours la Black House, mais il y avait plus de maison.
Ah, okay.
Et ben, il y avait Jacques Harry qui était venu, il y avait beaucoup d'autres combattants. Et nous, ils ne voyaient plus, et ils ne voyaient plus les gens qui venaient dormir gratuitement.
Ouais, ok, en fait, d'accord.
Il n'y avait plus que les stars. Ok. Et leur sparring. Et là, voilà, je me retrouve en retour. Oh, hello! Un peu calme dans chez Anderson Silva. On m'a trouvé des cours particuliers à donner. Je donnais des cours particuliers. Je commençais à gagner ma vie un petit peu. Et je devais partir dans pas longtemps parce que j'ai pris mon billet. Tu peux rester 3 mois. Et des fois, je grattais un petit peu. Je restais 4 mois. Il fallait payer 100. Je crois que c'était 50 réals d'amende par jour. Et là, je fais un dernier combat. Je lui dis, allez, Daniel, viens, on fait un petit dernier combat. Je m'entraînais à la Minotaur Team. J'étais sparring de Minotaur.
Donc, on rappelle Minotaur qui est donc un poids lourd de légende.
Voilà. J'étais sparring de Minotaur. Je me rappelle, j'étais tout seul dans sa gym. Je dormais tout seul dans la gym. Et une fois, un soir, comme ça, qui arrive dans ma chambre, un gros poids lourd qui est Junior de Santos.
Hein ?
Qui avait 4-0. Et il me dit, je viens là m'entraîner, j'ai un prochain combat à l'UFC. Mais non, tu vas combattre à l'UFC, toi ? Ah ouais. Ouais, on rigolait, on parlait. En plus, c'est un petit gamin, il parle, il est un peu... Et il me dit, on parle. Et à l'époque, il y avait Mirko Krokop qui avait signé à l'UFC. Uh-huh. Je me dis, imagine, peut-être dans le pot de Krokop. Je suis complètement fou, il va me défoncer. Il me disait ça. Et un jour, je le vois, et il combat Krokop. Je lui envoie un message, putain, t'as défoncé Krokop, putain, te rappelles à l'époque, on en parlait dans la maison, dans la chambre. Et je me rappelle, cette époque, moi, j'étais nourri, logé, blanchi chez Minotaur. Mais voilà, à contrepartie, j'étais son sparring. Et Minotaur, des fois, il vient à 1h, minuit, et il y a le mec qui travaille pour lui, il te réveille, toc, toc, toc. Il m'a dit, il y a Minotaur, il arrive dans 30 minutes, je prépare-toi, sparring. Toi, t'es en train de rêver, ça fait 3 heures, tu dors, mais t'as pas le choix.
Ah ouais,
tu l'as gratuitement.
Ouais.
Et je fais un dernier combat, je m'entraînais en kickboxing, je devais faire un combat de kick. Et j'arrive à Sao Paulo, et mon combattant, il n'est pas là. Et il y a un autre aussi combattant d'MMA aussi qui n'est pas là. Donc Daniel, il vient me voir, il m'a dit, t'es pas venu ici pour rien, fais le combat d'MMA contre le mec. Je lui dis, mais Daniel, je suis pas prêt. T'as peur ou quoi? Non, j'ai pas peur, mais je suis pas prêt, je me suis pas entraîné. C'est pas grave, t'es pas là pour rien, tu fais ton combat d'MMA, ça fait combien de temps que t'entraînes à MMA maintenant? Hein? Ah ben vas-y, fais ce combat d'MMA. Ok, vas-y, je fais le combat d'MMA. Et je, en fait, en plus, t'es bien payé. 3000 réals. C'est beaucoup à l'époque, hein, c'était énorme à l'époque. Putain, 3000 réals, tiens. Il y a un qui s'ouvre, j'ai un...
Il y a une douille, ouais.
Il y a une douille, tu vois. Et ben Minotaur, il était là, il dit, t'inquiète, tu vas le défoncer, tout est dur, tu es dur. Ouais, tu es dur, hein, je sais, je suis dur. Et j'arrive, je me retrouve en main event contre Charles Oliveira. Charles de Bronx.
Ouais, ça va être tranquille. Ouais.
Qui avait 4 combats, 4 victoires. Et moi, c'était mon premier combat d'MMA. Et pour l'anecdote, je pense même que la personne qui devait le combattre, c'était Johnny Frachin.
Ouais. Mais non.
Ouais, c'était Johnny Frachin.
Oh là là,
je m'en rappelle. Qui avait quinzaine de combats, Johnny, à l'époque. Hein.
Purée.
Ouais, c'était Johnny Frachin qui devait le combattre. Et je crois qu'il a eu un gros furon qu'il ne pouvait pas combattre, un truc comme ça, ou au pied, je me rappelle, il avait une grosse merde. Il ne pouvait pas le combattre, et c'est moi qui l'affronte. Et premier round, enfin mon round, je l'amène au sol, et je le tape, tout se passe bien et tout. Deuxième round, je me retrouve au sol, et moi, je faisais beaucoup de juillet dessus chez De La Rive, et je fais un... Je mets la main en dessous de la jambe pour le renverser, comme truc de garde de débutant, tu vois. Tac, il me coince le bras, droite.
Wow.
Dodo. Dodo. J'ai pris un KO dans ma vie, c'était ce KO. J'ai plus jamais pris de KO de ma vie. J'ai 56 combats.
Kick, c'était MMA. Une droite en ground and pound.
Une droite en ground and pound. Une ou deux, il m'en a mis. Et après, je sais même pas combien il m'en a pris. Je sais même plus combien j'ai pris après. Même le, je me rappelle, le referee, il me fait... et moi, dans ma tête, je croyais qu'on était en kick. Je croyais que j'étais debout en kick. Il me fait, tout va bien? Et je fais, non. Non, moi, je dis, tout va bien. Ça veut dire, oui, tu repars.
Ah ouais.
Et moi, dans la tête, et moi, je fais, non.
Voilà.
Et tout va bien. Et je me rappelle, avec Daniel, on part à l'hôpital faire des tests après un combat, tu vois. Et on voit un mec avec une jambe comme ça, un autre qui s'est pris une balle dans le ventre. Un hôpital public,
ouais.
Gratuit. Il n'y a pas qu'en France que les hôpitaux sont gratuits, hein. Là-bas aussi. Et on voit ces gens, on dit, putain, la queue, moi, pour un truc, j'ai pris un KO. Là, il dit, viens, on se casse, et on part. et je rentre en France. Je rentre en France, et je rencontre Eric Albert, qui était un des premiers combattants qui a combattu au K1 Japon. Et je rencontre Eric Albert, et aussi mon agent de kickboxing, qui est William Lustenberg, qui a organisé le K1 Marseille, des gros événements de kickboxing. Ils me font combattre tous les 2 mois, tous les 1 mois et demi. C'était rare à l'époque. Et je combats en kickboxing ou en muay thai tous les 1 mois, tous les 2 mois. Et je me rappelle, j'étais videur et en même temps, je combattais. Et putain, il est souvient, je combats tout le temps. J'ai fait une trentaine de combats. Je gagne le K1 de Marseille. Je fais pas mal de gros combats. Et je fais partie des top 10 des meilleurs combattants kickboxing de France. Et je fais partie du plus gros, des plus gros tournois où je me retrouve avec Johan Lidon,
ah bah.
Karim Gadji, Karim Ben Mansour et moi. Moi, pour moi, c'était des légendes du kickboxing. Tu vois, qu'est-ce que je fous là? Bon, après, j'ai fait des gros combats. J'ai gagné Frédéric Berrichon, qui était un gros combattant, qui avait mis KO Karim Gadji. Donc, je l'avais gagné. Donc, j'avais fait un beau parcours. Et je fais ce tournoi. Donc, je me retrouve parmi les meilleurs. Et je fais le championnat de France du K1. Et je perds contre Karim Gadji. Donc, voilà, je fais une belle carrière de kickboxer. Et là, il y a Daniel qui me dit, Mehdi, j'ai rejoint la Team Quest avec Dan Anderson. Oh, Dan Anderson, mais non, je suis fan de Dan Anderson. Mais vraiment fan. Et en plus, moi, je viens du Muay Thai. Donc, j'aurais pu dire que je suis fan d'Anderson Silva. Je suis fan de... Tu vois, non, moi, j'étais fan de Dan. J'aimais bien sa gueule de combattant, de guerrier.
Ouais.
Et qui montre rien. Et tu vois, et j'étais fan de lui. Il me dit, par contre, Mehdi, je te promets rien, viens. Ouais, mais est-ce que c'est bon, je peux dormir là-bas? Mehdi, je peux rien te promettre. Viens, fais tes preuves. Voilà. Et j'arrive. Et j'arrive le premier jour et sparring, il me dit. Avec Dan. Par contre, Mehdi, c'est test. Test contre Dan. Et moi, je me retrouve à mettre les gants contre Dan Anderson. Test, sparring. Et grosse guerre. Quand je dis grosse guerre, c'est que je lui rentrais dedans. Et même Dan, il a dit, mais il est ouf le mec. Il me rentre dedans. Et moi, peut-être maintenant, ça me joue des défauts parce que j'ai fait des grosses guerres avec les sparring. Moi, si tu vas voir, demain, tu vas voir Victor Belfort, il me reconnaît. Tu vas voir Anderson Silva, il est venu à Londres me voir. Anderson Silva, il est venu faire un stage à Londres. Il est venu me voir, on a mangé ensemble. Jusqu'à Ricardo Arona pour son combat... contre Sakuraba, tous ces mecs-là qui ont fait sparring avec moi, ils se rappellent de moi en tant que Mehdi, guerrier. Je ne dis pas que j'étais un tueur en combat, mais au sparring, j'étais là. J'étais un guerrier en sparring. J'avais pas peur. J'aimais ça. Et ça m'a joué des tours parce que j'ai pris beaucoup de coups. C'est-à-dire, j'aimais la guerre. Et des fois, j'aimais carrément une fois, je me rappelle, Daniel, il me dit, vas-y, fais sparring avec lui, un Irlandais, un bagarreur. Et on y va, on se tape. Mais je fais un sparring dégueulasse. Pas technique. Et Daniel, mais t'es un fou, qu'est-ce qui t'arrive? Je fais, Daniel, je voulais me prendre des coups. Mais t'es malade. Ouais, je suis malade. Mais je voulais me prendre des coups aujourd'hui. Et j'avais des marques et tout. Et normalement, ce mec-là, j'aurais bien contré, bam, bam. Tu vois, intelligemment, je l'aurais défoncé. Et dégueulasse. Et je fais un sparring dégueulasse avec lui. Mais je voulais me prendre des coups. J'aimais ça, en fait. J'aimais les coups, moi. C'est tout. Et j'ai perdu le fil.
Ben, t'en étais du coup à la Team Quest, tu fais un sparring avec Dan Anderson.
Et Dan, il dit, ouais, j'adore ce mec. C'est un fou, mais ouais, je l'adore. Et il me signe un visa de 3 ans pour rejoindre la Team Quest. Donc je joins la Team Quest avec Dan Anderson, Shel Shonnen, Tarek Safedine. Que des légendes. Sokuju. Ouais, avec des légendes. Et voilà, je faisais sparring avec ces mecs-là. Ouais, j'étais leur sparring, j'apprenais avec eux, et j'ai appris beaucoup en lutte. Mon seul petit regret, on va dire, en MMA, petit regret, hein, j'ai pas de regret, c'est de pas avoir utilisé ma lutte et mon jiu-jitsu. Parce que quand on dit Mehdi Bagdad...
C'est Muay Thai.
Coup de coude.
Ouais.
Mais j'ai une très très bonne lutte, et je suis pas parti au Brésil en 2004 pour aller prendre le portugais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je dis, putain, tu parles bien le portugais! Ouais, mais les gars, je suis pas parti au Brésil pour parler le portugais. Je suis de la Riva, quand il vient aux États-Unis ou quand je viens en France ou quand je vais au Brésil, de la Riva, il m'appelle. Mehdi, t'es où? On mange ensemble? Si de la Riva, il m'appelle, des fois, je rencontre des Français parce que moi, je suis encore sur ceinture violette. Ma ceinture violette, je l'ai eue en 2015. Ah oui, tu vois, je fais beaucoup de sol. De 100 kimono. Je me rappelle, ma ceinture bleue, je l'ai eue avec de la Riva. Et il me fait. Ça faisait 5 ans que j'étais ceinture blanche.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand je venais, il me dit, je finalisais des ceintures violettes en ceinture blanche. Même une fois, David Pierre-Louis, qui était ceinture marron à l'époque, il venait avec ses mecs, il tourne avec moi, il pensait que j'étais un Brésilien. Je parlais pas. Et je tourne avec lui, on tourne, je tourne de partout. Et à un moment, il me prend en main de vache, comment on appelle ça? Mao Jivak.
Je ne sais pas. Ouais.
Je ne sais pas comment on dit en français, c'est Mao Jivak, c'est main de vache. C'est quand tu pousses le mec, et lui, il m'a cassé le scaphoïde.
Ouh, ouais. C'est chiant en plus.
Et je me rappelle, je m'entraînais avec Ricardo Arona à l'époque. Et il m'a dit, oh désolé, je pensais que tu étais un Brésilien, tu avais oublié ta ceinture, et tu avais pris une ceinture blanche. Ouais. Je suis ceinture blanche, moi. En fait, s'ils savaient vraiment que j'étais ceinture blanche, ils m'auraient pas appuyé. Mais comme ils pensaient que j'étais vraiment...
Ok.
Ils pensaient que j'étais un Brésilien. J'avais oublié ma ceinture, j'ai mis une ceinture blanche, et voilà, je tournais avec lui. Tous ses élèves, ils nous regardaient. Je parlais de partout. En fait, non. Et je me rappelle, j'avais la haine contre lui. Là, s'il m'écoute, il va dire, putain, le bâtard, il a monté un plan contre moi. Et je l'avais dit à Ricardo Arana. J'ai dit, un Français, il m'a blessé parce qu'il pensait que j'étais Brésilien. Ouais, j'ai dit comme ça. Il m'a dit, ramène-le dans ma salle.
Oui.
J'avais l'âge, j'avais...
scaphoïde pété,
ouais. C'est 9 mois.
Ouais,
j'ai arrêté pendant 9 mois comme ça. Tu vois. Donc, pour te dire que, voilà, j'ai une belle réputation, j'ai marqué les esprits de pas mal de champions.
Mais d'ailleurs, ça s'est fini comment avec David Pierre-Louis, finalement? Il a été dans la gym d'Arona?
Non, il est resté. Okay. Lui, il venait une semaine, deux semaines avec ses élèves. Il D'accord. ramenait 15, 10 élèves, tu vois.
Okay.
Et il est devenu ami, c'est devenu un pote.
Ok. Et alors, du coup, après avoir été dans la Team Quest, à ce moment-là, du coup, bon, tu commences à avoir un énorme pédigré en pied-point. Tu avais aussi d'énormes bases dans toutes les disciplines différentes du MMA. Et puis là, ça commençait encore plus avec la lutte à la Team Quest, forcément, gros lutteur américain. Et du coup, comment est-ce que ça se passe, la transition vers ta carrière de MMA, vraiment?
Mais en fait, j'avais souvent des combats mis en place. Dans 2 mois, Mehdi, tu combats là, Vegas. Là, oh, j'étais content. Combat annulé. Mehdi, là, j'ai eu 20... Même sur Internet, c'était en anglais. J'ai 21 combats, 21 annulés. Je me suis comment? En fait, les mecs, je les comprends. C'est leur premier combat d'MMA. Comme moi. Comme moi, on va dire. Et... Il dit, ok, j'affronte ce mec. Après, il dit, attends, tu vas sur YouTube, il y avait un like de moi, Mehdi Bagdad kickboxing. Et il voyait mes 30 combats. Avec une musique de fou, des coups de genoux sautés. C'est qui ce mec?
Ouais, pour un premier combat, même de MMA, la flemme, quoi. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? C'est comme moi, c'est mon premier combat d'MMA, et on me propose Doumé, premier combat d'MMA. Mais je veux pas combattre Doumé, un ouf, toi. C'est mon premier combat d'MMA.
Ouais.
Il a 90 combats de kickboxing, il a 10 ceintures. Laisse-moi tranquille, va chercher quelqu'un d'autre. J'ai envie de monter, j'ai envie d'aller à l'UFC, moi.
Ouais.
Donc, il refusait. Et au bout de 1 an et demi d'attente, on me dit, bon, on va changer, on va trouver des combats de dernière minute. Prépare-toi. Ok. Et je fais des combats de dernière minute sous 48 heures ou sous 24 heures. Et perte de poids, 6-7 kilos, voilà. C'est pas grave. Je m'entraînais, j'étais prêt. Et premier combat, je gagne. J'ai gagné même pour la ceinture du Bama en 48 heures. Ils m'ont appelé 48 heures avant pour perdre 10 kilos. Je me rappelle, mon prof, il me dit, mais j'étais en train de boire. Arrête de boire.
Oh là là.
Tu combats demain, t'as la pesée. Dans 24 heures. Quoi?
Pardon.
Au Bama, pour la ceinture. Oh putain. Contre un mec qui avait 7-2, tu vois, donc... Et voilà, je fais ces combats et je gagne. J'étais bien entraîné, je m'entraînais bien tous les jours. Et je gagne. Et après, il y a un petit souci avec Daniel. Et un souci bête, hein, il voulait pas accompagner un combattant de la Team Quest pour un combat de Muay Thai. Il entraînait tous les jours. Il faisait des cours privés à ce mec. Et il voulait pas l'accompagner au combat. Je dis, ah non, la honte, je vais pas l'accompagner, il va se faire défoncer. Daniel est comme ça, je ne pouvais pas, il va se faire défoncer, je ne vais pas avec lui. Et Dan Anderson l'a mal pris. Il a dit, comment ça? Il prend de l'argent sur le mec, il entraîne le mec, il doit aller, et c'est un mec de la team, il doit aller avec lui normalement. Et il a viré. Il a viré pour ça. Et Daniel, il se trouve un peu dans la merde, et il rejoint la Black House, Los Angeles. Donc et moi, je quitte un peu Dan, même Dan, il a mal pris que je suis parti. Mais moi, où Daniel va, je vais. Mmh. Comme il y a un dicton en portugais, et s'il va se fouder, vous me foudez. S'il va se faire voilà, okay. Et voilà. Et donc je suis Daniel, je sais pas trop ce qui s'est passé, hein, mais je veux pas chercher à comprendre, moi je suis Daniel. Et il va à Los Angeles, Black House, Anderson Silva encore, retour, Victor Belfort, retour, il y a tout le monde, on revoit tout le monde, Lyoto Machida, et Rose Sparring et tout, et moi il me dit, Edge Suarez, le manager, me dit, j'ai mon événement, qui est le RFA, qui est le LFA maintenant, il y a tous les mecs qui ont combattu à l'UFC, ils ont été champions du RFA. Donc si tu es champion du RFA, tu peux joindre l'UFC. Ok. Donc je fais mon premier combat, je gagne, en 1 minute 45, gros KO. Et deuxième combat pour la ceinture. Waouh. Et je fais un combat, beau combat, un gros lutteur. 4 rounds et 4 émous, j'étais fatigué. Il n'arrête pas de se jeter sur moi, tu vois. Et je gagne un gros coup de coude de Muay Thai en clinch. Bah, il tombe, KO. Et je le tape encore par terre. Et je me rappelle, j'avais tellement une haine qu'il n'arrêtait pas de me faire chier en lutte. J'ai dit, je vais pas le lâcher. Dès que je vais le toucher, je vais pas le lâcher. Et pour te dire que John McCarthy, il m'a poussé, parce que j'étais KO, j'ai poussé John McCarthy pour le retaper encore, et après, oh putain, que je vais. Oh. J'étais dans... Ouais. Quand tu combats, t'es dans un...
Possédé.
Parce que des fois, il y en a, ils disent, ouais, c'est un mec pas bien, il a mis KO, il a retapé KO.
Ouais, non, adrénaline, quoi. Ouais.
C'est l'adrénaline, c'est pas notre faute. Tu l'as touché, je veux le finir, tu vois, et c'est comme ça que c'est passé. Et je suis champion du RF1, et je dis à Edge, c'est l'UFC, alors... Attends, un peu refait pour la ceinture. Eh non, tu m'as dit, je suis champion, je rentre à l'UFC. Ouais, mais non, c'est compliqué, en ce moment, il y a trop de mecs à 70 kilos, je comprends. Et j'ai une ouverture. Il y a le The Ultimate Fighter qui m'appelle. Et il voulait prendre les meilleurs combattants. Et à cette époque, je faisais partie, j'étais le meilleur combattant français à 70 kilos. Devant, c'était le classement Fight Sport. J'avais que des victoires. Et je fais partie des meilleurs français, donc le TUF m'appelle, et je fais partie de la team européenne, donc je dois choisir une équipe, donc la France, Europe contre les États-Unis, les meilleurs combattants européens contre les meilleurs combattants américains, et pour faire la partie de la team de Conor McGregor. Donc j'accepte de représenter la France, même si je représente dans tous mes combats l'Algérie, pour un point voilà, je suis un Algérien né en France, en respectant la France,
c'est ça.
Ouais. Voilà, avec l'histoire aussi que j'ai eue. Comme on dit, je suis né algérien, non pas parce que je suis né en Algérie, mais parce que l'Algérie est née en moi.
Ouais, et puis en plus, on pourra en reparler peut-être à la fin, mais en fait, c'est ça qui est, en tout cas, je trouve qui est hyper cohérent, c'est que de toute façon, tu représentes l'Algérie et tu te sens algérien, et par rapport à l'histoire que tu as eue, on peut comprendre que voilà, tu te sens plus algérien. Mais surtout, bah, comme à aucun moment et jamais tu ne craches sur la France, et en fait, c'est cohérent.
Et quand je vois un mec comme Saint-Denis, qui représente la France comme il le représente, oh, j'adore.
Ouais.
Ah, je suis fan de lui.
Ouais.
Dès que je vois des mecs qui des fois, je vois... moi, je suis un anti-européen. J'adore les Français qui disent notre pays, c'est la France, c'est pas l'Europe. Oh, je mets des likes. Je suis fier des gens qui sont fiers de...
Ouais, de leur culture, de leur pays.
J'adore. Ouais. Ouais. Ça, j'adore.
Ouais.
Tu vois, c'est...
Et c'est pour ça, et on en parlait juste avant, mais c'est pour ça que ça me choque tellement pas, parce que t'es fier de ta culture et du pays qu'est l'Algérie, mais à aucun moment tu ne craches sur la France ou tu ne t'en prends à la France, et du coup, enfin... Il n'y a aucun problème, c'est simple. Et en plus, tu aimes les gens qui aiment leur pays à leur cours et à leur tour, etc. Bah, si tout le monde était comme ça, je pense qu'il y aurait moins de problèmes pour le coup. Il n'y a pas de haine de l'autre, c'est juste on aime notre culture.
Exactement. Et c'est comme les Libanais qui sont nés au Sénégal. Ils disent pas, je suis Sénégalais, s'il vous plaît, respectez-nous en tant que Sénégalais. Non, c'est des Libanais nés au Sénégal. Des Libanais nés en Côte d'Ivoire. Mais moi, c'est la même chose. Je suis un Algérien né en France, où j'aurais pu être né au Japon. Ou... Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Et c'est pour ça que j'adore, je connais beaucoup de Corses, Ils sont fiers d'être corse. Et j'adore les gens qui sont fiers de ce qu'ils sont. Tu vois. Et voilà, c'est pour ça que Saint-Denis, j'adore quand je le vois représenter la France comme il la représente.
Ouais.
Et il a son propre caractère à lui-même. Mmh. Il essaie pas de copier quelque chose.
Ouais. Ouais. Et du coup, et pour reprendre le fil de là où t'en étais, bah tu t'es champion du LFA et tu demandes quand est-ce que du coup ça se passe l'UFC.
Donc le teuf m'appelle pour joindre l'équipe de Conor McGregor. À l'époque, Conor c'était la the légende. Waouh, une opportunité énorme. Et moi, ce qui est marrant, c'est que tous les Américains me connaissaient, mais aucun Européen me connaissait. Tu vois, parce qu'ils combattaient dans les événements européens, et nous, on combattait dans tous les événements américains. Moi, ils me connaissaient parce que j'étais champion du RFA. C'est le plus gros événement national aux États-Unis, donc tout le monde le regarde. Et j'arrive au TUF, et les sélectives, ils me mettent le meilleur combattant, Artem Lobov. Parce qu'on a eu une mauvaise image au TUF, avec un Français qui avait abandonné. Donc je dis, les Français, ils sont nuls, et on va mettre le plus nul contre Artem Lobov. Comme ça, Lobov, il défonce, et il rentre plus facilement. Mais il se rend compte que c'était pas le plus facile, en fait. Et moi, je me retrouve contre Lobov. Et voilà, franchement, il y en a 10, il a gagné le premier round. Non, je lui ai défoncé le premier round et je lui ai défoncé le deuxième round. Même à un moment, je lui mets un coup de coude. Si je me prends un coup de coude comme ça dans ma carrière, j'arrête le MMA. Je lui ai dit, mais je sais pas comment t'as fait. Il a fait l'ascenseur, il s'est relevé. Je lui mets un coup de coude venu d'en haut avec toute la puissance. Là, je l'ai coupé, je lui ai fait 9 points de suture. Je sais pas comment, il est pas tombé KO. Peut-être qu'il y a des trucs qui prennent. Et je garde ce combat et je me casse la main. Je me casse la main et je vois, il y a Conor qui me regarde. Il me voit mettre de la glace et je parle en portugais avec mon prof. Je crois que ma main est cassée. Et Conor, il vient me voir, il fait Médis, ta main, ça va? Je vois, ça va, fais voir. Oh, ça va, ça va bien, bien, tranquille. T'es sûr, elle n'est pas cassée, tu veux qu'on aille voir un docteur? Non, tranquille, c'est juste tu t'hématomes, tranquille. Et en fait, s'ils s'aperçoivent que j'ai la main cassée, je ne rentre pas dans la maison.
Ouais, ouais, ouais.
Et ils vont refaire entrer Artem Lobov à ma place. Que, voilà. Et je rentre avec la main cassée. Et deux jours plus tard, on voit comme ça, de nulle part, Artem Lobov, il arrive. Ouais les gars, mais comme c'était un très beau combat, on va faire revenir le meilleur des combattants. De là. Je suppose, et j'ai là, sous le cul, avec ma main cassée, en train de voir Artem Lobov revenir. J'étais là dégoûté. Et pendant le show, bon, tout le monde de la team savait que j'avais la main cassée, donc Conor aussi. Et moi, je voulais prendre un mec petite taille, comme ça. Je ne mets que des jabs, et des kicks, et des genoux, et je gagne mon combat comme ça. Et non, ils me disent, non, toi, Mehdi, tu vas prendre Julien Rosa, il est de même style que toi, en plus, c'est un striker, comme toi. Je dis, non, je préfère prendre un...
Ouais, mettez-moi plutôt.
Non, ça c'est mieux pour Artem parce qu'ils font la même taille. Les bâtards, ils sont en train de monter un coup sur moi. Et en fait, ils m'ont mis Julien et Rosa, qui est le seul américain à aller le plus haut possible.
Ouais.
Tous, ils ont été éliminés. Et le seul qui n'a pas été éliminé, c'est Julien et Rosa.
Et qui est encore aujourd'hui à l'UFC.
Encore à l'UFC, qui avait plus de 26 combats quand je l'ai affronté. Ils m'ont eu. Après voilà, j'ai fait un très beau combat contre lui et il courait. Ah, tu le vois, moi j'étais là, j'ai plus senti ma main, elle était même plus cassée, et je lui tapais coup de coude. Même t'entendais Faber qui disait attention les coudes. On a fait un très très beau combat, franchement. Lui et moi, Dana White, il vient me voir à la fin, il me dit, pour moi t'as gagné le combat, tes coups étaient plus puissants, mais lui t'en envoyait un peu plus, il t'envoyait beaucoup de jabs dégueulasses comme ça, mais il te touchait. Tu vois, et parce que moi je faisais que rentrer.
Ouais.
Moi je suis un mec qui rentre.
Ouais.
Tu vois, et je bloque et j'aime bien rentrer pour prendre en clinch et pour mettre des coups de coude derrière ou des genoux.
Ouais.
Et je perds mon combat à la décision. Et après je vais voir le docteur et il m'a cassé. Il me met un plâtre et voilà, je fais l'événement et Artem Lobov gagne le. Il met KO tout le monde.
Ouais.
Le mec que je gagne.
Ouais.
Mais KO tout le monde. Et voilà, bon, je me remets de ma main Et je m'entraîne pas parce que j'ai la main cassée. Et je reprends l'entraînement doucement. Coup de fil. Et là, je change de manager. Parce qu'il y avait le manager de Connor, qui est Audi Otar, de Paradigm. Et qui m'aime bien. En plus, lui, c'est un Irakien. Et moi, je m'appelle Bagdad. Et il m'aime bien. En plus, il m'était un guerrier. Mais Connor, il m'était un guerrier. Il faut que tu viennes t'entraîner avec nous. Je t'adore et tout. Et il me dit, joins-nous avec notre team. Je fais, moi, je suis avec Ed Suarez. Voilà ce que je vais faire. Je vais aller voir Ed Suarez. Je vais lui dire, regarde, Ed, je sors du teuf. J'ai fait une belle prestation. Si tu me garantis que tu mets à l'UFC, feu. Si tu me dis non, il faut refaire un combat au RFA, je vais signer avec Audi. Il me dit, ouais, t'es comme ça. Je fais, non, je préfère te le dire.
Ouais.
Je suis en face de toi, je te le dis. Et moi, il me dit, je peux pas te mettre à l'UFC. Et l'autre, il te mettra pas à l'UFC. Il n'y a pas. Ok. Et après, il me dit, par contre, Mehdi, si tu vas avec l'autre, je te veux plus à la balcarce. Je suis ok, pas de problème. Donc moi, je joins la team d'Anderson Silva. Donc maintenant, je suis le sparring officiel de Anderson Silva. Quand je dis sparring, c'est pas « Oh, j'ai fait sparring avec Gérard. » Non, non, je suis son sparring. Il me paye en chèque après les combats. Je suis vraiment son sparring officiel. Et et Daniel vient m'entraîner à chaque fois chez Anderson Silva, à sa salle. Et Daniel était un peu... C'était un peu compliqué pour lui parce que les combattants... Ils l'ont toujours mal respecté parce que, en fait, les mecs, ils se prostituent pour entraîner les stars. Et quand t'as Daniel qui vient avec toute sa famille, il veut gagner sa vie, il doit payer un loyer, il doit payer l'étude pour ses enfants, il doit, tu vois, il est là, il dit merde, je me fais pas respecter, tu vois. Donc, il en reste qu'un, c'est Mehdi, que j'ai mis à l'UFC, en espérant qu'il va cartonner. Mais moi, j'aime pas m'entraîner. Moi, mon rêve, c'est d'aller à l'UFC, c'est tout, Daniel. Tu vois ? Et moi, je veux pas être une légende de l'UFC. Je suis pas Benoît Saint-Denis, moi. Moi, je suis...
Ton rêve, c'est d'aller à l'UFC, de combattre à l'UFC, c'est tout.
Ouais. Et là, au bout d'une semaine d'entraînement, il y a mon manager qui m'appelle Audi Otar. Mehdi, combat à l'UFC, dans 4 jours. Tu remplaces Islam Makhachev. Qui doit combattre contre... comment il s'appelle ? Le lutteur de ouf, là ?
Chris Wade.
Voilà, je dois combattre... Tu dois remplacer Islam Makhachev contre Chris Wade, qui est dans le top 10, même top 5, Chris Wade. Bon, fou. Oui. pas prêt physiquement, pas entraîné. Et 14 kilos en trop. Donc, galère à perdre du poids. Je suis j'arrive au poids, 500 grammes en trop, on m'enlève le slip, tout ça. Dana White, il voit, il dit au mec. Donc il laisse passer. Et je fais ce combat. Et j'arrive. C'est mon rêve. Je suis là. Je suis à Boston. 40 000 personnes. Je crois que c'est un des plus grands stades de Boston. Et là, mon rêve. Je suis heureux. Je saute de partout. Je suis émerveillé. Ça y est, j'ai atteint mon rêve.
Ouais.
Je saute de partout. Pour moi, je suis même pas je suis prêt ou pas prêt. Et là, j'y vais. Bam, on commence. Il m'esquive un crochet gauche. Il essaie de m'amener au sol. Je le défends bien. Il me fait une belle prise de judo. Il m'amène au sol. Au sol, je bloque. Même Joe Rogan, il dit waouh. Ça se voit que Mehdi, il a une grosse expérience au sol. Comment il bloque avec ses genoux.
Ouais.
Ta, 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 ta. Et après, je sens un coup de fatigue devenu de nulle part. J'ai rien compris. Et je me sens faible. Et je sens que je vais tomber dans les pommes. Alors je me laisse un petit peu, il me prend le dos. Et comme il prend le dos, je laisse tout. Et je tape. Et c'est la première fois de ma vie que je tape. Et j'ai dit à Daniel, j'ai failli tomber dans les pommes. Donc je me lève. Comme je me lève, je dis, mais attends, ils vont annoncer, donne l'eau, s'il te plaît, je vais tomber dans les pommes. Et il passe de l'eau et je me suis senti tomber dans les pommes. J'ai failli tomber dans les pommes ce jour, ce combat. Et je perds ce combat. Et pour moi, c'est pas une défaite, hein. c'est pour moi, c'est une victoire. Parce que je suis allé à l'UFC. Et deuxième combat, on me propose John McDessie. Belle préparation. Mon problème, c'est que avec Daniel, on faisait pas de camp d'entraînement pour tel type de combattant. On dit pas premier round, on va faire ça. Deuxième, nous, c'est guerre. Tu le défonces, c'est tout. Il n'y a pas de. Et John McDessie, on combat. on doit lui péter les jambes quand même. Je fais un très très beau combat. Je gagne, pour moi je gagne tous les rounds. Même les mecs chez Sherdog, ils m'annoncent gagnant sur tous les rounds. Et je fais, au troisième round, je le touche. J'ai failli le mettre KO. Il était KO. Et en fait, au lieu de le finir, moi, à l'époque, je faisais beaucoup de Juji Katame à la volée. Et tout le monde me dit, mais dis, un jour, il faut que tu le sortes en combat. Il faut. Et moi, mon rêve... Attends, le mec, il a un milliard de rêves. mon rêve, c'était de faire ce Juji à la volée et de gagner ces $50,000 de bonus de Juji à la volée. Champion du monde de Muay Thai qui fait Juji à la volée. Waouh !
Légendaire.
Légendaire. Ouais. Et là, je vois un John McDessy qui est KO. Je vois les yeux, ils sont KO. Au lieu de le finir, moi, je suis là pour faire du show. Je ne suis pas là pour gagner un combat. Moi, je préfère perdre un combat et gagner des fans que gagner un combat et les mecs ils disent ah, bah, j'aime pas trop son style de combat, il gagne pour il a mis au sol. Non, moi je m'en fous, moi je suis là pour le show, je suis là pour la bagarre, je suis là pour le spectacle, tu vois, je suis un acteur, tu vois, c'est ça pour moi, c'est ça. Les gens ils payent un billet pour voir du spectacle, ils voient pas un billet, ils payent pas un billet pour voir lui gagner, l'autre gagner. Non, c'est comme au cinéma.
C'est du divertissement.
Tu regardes pas Van Damme qui gagne à la décision.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
J'avoue, c'est parfait ça comme analogie. Ouais.
Tu vois? Et là, je le vois, les KO, et j'en profite. Je prends son bras. Je le prends, je le mets là. pour te dire, il est KO. Et je me saute en Juji. Et quand je saute en Juji, il est flat, il est mou. Et il tombe. Et en fait, le Juji... il fonctionne que quand il a une réaction. Il n'a pas de réaction, donc il tombe, brrr, et je tombe dans sa garde. Et je m'en rappelle, encore aujourd'hui, quand je tombe, le premier regard que quand je tombe, je vois Khabib qui me regarde et fait ça.
Khabib qui était en bord de cage à ce moment-là.
En bord, et je le regarde. Et moi, je le regarde, je fais... je rate ça. Et voilà, et quand je tombe, je suis mort. Je suis fatigué. Et je bloque. Et lui aussi, il est plein de sang. Il me met plein de sang là et tout. Et lui, il bloque, il se repose. Après, j'essaie de lui faire un vieux triangle. Et il sort du triangle. Et il se relève. Et il me dit, allez, on se relève. Et là, je suis mort. Il reste 1:30. Et pendant 1:30, il me tape. Et moi, je suis mort. Je suis fatigué. Et c'est 1:30 qui font que les juges le donnent gagnant. Et pour te dire... que ces juges, c'est les mêmes juges, parce qu'à Vegas, c'est des juges de boxe anglaise, parce que c'est la boxe anglaise. Et les mêmes juges, c'est deux vieilles, je te les montre, hein, et un vieux à la moustache. Et c'est eux qui sont juges pour les combats de boxe anglaise et qui ont fait Manu Pacquiao, Mayweather. Donc ils se retrouvent à me juger moi, c'est-à-dire que John McDessy me met un jab, moi je lui mets un coup de genou ou un coup de coude, en 1-1.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. C'est l'éternel problème.
Je lui mets un high kick, lui m'a mis un jab. Ah.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. Donc voilà, j'ai été jugé comme ça. Et je perds mon combat à la décision. Et on me rappelle, un mois après, Mehdi, j'ai un combat pour toi. Joe Silva, il a dit un combat. Je fais, je peux pas combattre, je suis à l'hôpital. À ce moment même, j'ai une hernie à enlever. C'est rien, hein, c'est juste à l'enlever, c'est 3 semaines, pas d'entraînement. Mehdi, je l'ai appelé, il m'a dit, rien à faire. Et je lui ai envoyé les photos, je suis à l'hôpital, comme ça, avec le petit bracelet de l'hôpital, tu vois, rien à faire. Si tu combats pas, on te vire de l'UFC. Je peux pas combattre. Et ça passe, et deux jours après, je vois... annonce Mehdi Bagdad contre je sais même plus comment il s'appelle. Je me suis quoi ça? Je lui ai dit que je voulais pas combattre. Tu vois?
Pour te forcer la main quoi.
Pour me forcer. Je lui ai dit non mais je peux pas combattre, moi, je ne combats pas. T'as même Daniel qui m'appelle parce qu'à un moment je m'entraîne un petit peu en anglaise, parce que je voulais m'entraîner pour mes esquives, parce que je me prenais trop de coups. Et je voulais m'entraîner dans les esquives. Je suis avec Daniel, on fait beaucoup d'esquives en contre. Mais pas assez d'esquives anglaises, tu vois. Et je voulais m'entraîner un peu en anglaise pour changer un petit peu. Et Daniel, il a vu ça en temps. Il a vu que je m'entraînais ailleurs, en anglaise, et que j'accepte un combat sans lui dire. Il pète un câble, mais qu'est-ce qui se passe là? Mehdi, t'as accepté un combat? Sans me dire. Tu veux faire quoi? Tu veux me prendre, de passer derrière? Je fais, mais Daniel, j'ai rien accepté. J'ai vu. Daniel, je te jure, j'ai rien accepté. Je suis à l'hôpital.
Ouais, sauf que l'UFC l'a annoncé et du coup.
Pour lui, voilà.
Ouais.
Donc on s'embrouille. Et deux jours après cette annonce, il me vire. Je suis viré de l'UFC. Je savais que j'étais viré de l'UFC, moi, parce qu'ils m'ont dit, si tu combats pas, t'es viré. Et après, une petite embrouille avec Daniel, qui était content que j'étais viré de l'UFC, parce qu'il a cru que j'étais passé dans le dos.
Ouais.
Il appelle mon sponsor, et lui dit que je suis viré de l'UFC. Bon, je le prends mal, et je lui sors une ancienne histoire que j'aurais jamais dû dire, et on s'embrouille, lui et moi.
Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? T'es déçu parce que t'as pas eu encore ta victoire à l'UFC, ou t'es en mode, de toute façon, j'ai accompli le rêve que je voulais? Enfin, comment tu vois les choses et à ce moment-là, le futur?
Alors, déjà, je me sens un peu un petit couteau dans le dos de la part de mon maître, qui est Daniel. Après, je le savais qu'il était, il en pouvait plus des États-Unis. Il en pouvait plus. Il voulait partir. Il en parlait. Il disait, il faut que j'en ai marre des États-Unis. Tu galères, tu gagnes pas d'argent. Voilà. Et je pense qu'il a utilisé ce petit détail. Et en fait, deux semaines après, il est parti vivre en France. En fait, ce petit couteau dans le dos, que j'ai pas aimé, mais je regretterai pas, parce que c'est grâce à lui qui m'a fait amener à l'UFC. J'ai atteint mon rêve grâce à lui. Et il m'a fait changer ma vie grâce à lui. Donc je le remercie. Et s'il me voit aujourd'hui, encore merci. Et encore désolé pour les conneries que j'ai sorties derrière, parce que...
Ouais, il y avait du... Voilà, c'était des embrouilles, énervement.
Voilà, ouais. J'ai peur de perdre mon sponsor, et je l'ai perdu, mon sponsor. Hein. Bon, voilà, j'oublie, et je lui ai même... je lui ai même dit que j'étais vraiment désolé sur Instagram, bon, bref. Et Joe Silva, j'avais vraiment une haine contre lui, et il savait pas que j'avais des contacts sur les sites internet. Et j'ai au moins 10, 12 sites internet qui me contactent. Et on commence à faire le buzz. Mehdi Bagdad, viré de l'UFC parce qu'il n'a pas voulu combattre, blessé. Joe Silva oblige Mehdi Bagdad de combattre, blessé à l'UFC. Plein. T'en as au moins 12. Tu vois. Et même tu tapes sur internet.
Ouais,
Mehdi,
ouais.
Et il y en a plein qui ont disparu. Hein, mais il y en a 8, 9.
Ouais, on a été voir tout à l'heure, c'est direct.
Et deux semaines plus tard, comme par magie, je ne sais pas si c'est moi ou quoi que ce soit, mais moi, il y a des avocats qui sont venus me voir, des gros, gros avocats qui voulaient se payer l'UFC. Les avocats, c'est leur métier là-bas. Tu fais un accident,
Ouais.
Voilà, c'est leur métier. Donc là, ils ont profité, ils ont dit, on va les tuer, l'UFC. On va prendre beaucoup d'argent. Et là, plus de Joe Silva, il sort de l'UFC. Et une semaine après, l'UFC me rappelle. Oui, Mehdi, on a pensé te refaire venir ton dernier combat qu'on t'a enlevé, mais on va te faire revenir à Tough Redemption, The Ultimate Fighter Redemption, et on te met une signature de ton combat. Ok, moi je suis séduit, en plus, un deuxième Tough.
Ouais. Oh,
moi, mon rêve, c'est d'aller à l'UFC. Je fais un Tough. Waouh, deux Toughs. Et des combats de l'UFC. Attends, ouais. J'ai pas demandé tout ça, moi, tu vois. En plus, moi, c'est, je veux faire du show. Donc, quand tu rentres dans le teuf, tu mets les lunettes, tu fais le beau, c'est le show, tu vois.
Ouais.
C'est ça que je voulais faire.
Ouais.
De l'acting. Je voulais jouer mon rôle. Un rôle. Le sultan. C'est un rôle que je voulais me donner. Maintenant, tu me vois dans la rue, et pas de sultan. Hein. Moi, tu me vois dans la rue, je suis un joueur de pétanque. tu vois ce que je veux dire, c'est...
Ouais, c'était pour le show.
Le show. Sultan en temps, tu vois. Et je fais le teuf, je prends Jesse Taylor, tu vois, qui me fait le double, bon bref, je perds la décision, j'ai failli le mettre KO, mais tout le monde a été surpris, j'ai failli le mettre KO, et lui soumet tout le monde. Je suis le seul qui ne soumet pas, et des ceintures noires, hein, il soumet, je suis le seul qui ne soumet pas, c'est pour ça que je regrette de ne pas
avoir pu montrer
mon sol. Parce que j'ai un très bon sol et une très bonne lutte. J'amène beaucoup de gens au sol. Et lui, il n'arrive pas à me soumettre. J'ai failli le mettre KO. Et il gagne le tough. Et un mois après, il est détecté positif.
Oh.
Donc il gagne le teuf, et en fait, il est positif à la testo. Mais ça y est, c'est fini. Il nous a tous éliminés. Et, ouais. Voilà. Et moi, il me reste un combat à l'UFC. Et au fur et à mesure, je rencontre beaucoup de gens. J'avais déjà rencontré le prince du Bahreïn. Mais on m'avait juste invité au Brave à l'époque. J'avais rencontré le prince. Et j'avais des amis qui travaillaient avec le prince. Et il me dit, Mehdi, si tu veux, on te fait combattre au Brave. Je fais, vas-y, avec plaisir, mais moi je veux une belle bourse. Parce que il me reste un combat à l'UFC quand même. Hein. T'inquiète pas. Viens, rencontre le prince. Donc je suis parti en vacances avec le prince. On est parti au Cap-Vert ensemble. Je me rappelle dans la piscine, il me dit, Mehdi, alors, c'est quand tu combats pour nous? Tu comprends, avec le président, on est en train de négocier, mais il veut pas me mettre. Combien tu veux? Ouf. Franchement, je veux. Si j'ai ça, tant je combats. C'est trois fois plus que l'UFC me paye. Il me dit, khalas, deal. Il me serre la main dans la piscine.
Juste comme ça. Oh purée.
Donc, les mecs qui m'ont fait présenter le prince, ils s'occupent de. Genre, ils me managent, tu vois, et ils me font signer un contrat de trois combats avec ses primes. Et pour te dire, le président, il a même mal pris que je signe des primes de malade. Et pour te dire, il a voulu mettre que des top. Je me rappelle, premier combat, je combats un Polonais. J'ai la main cassée, une semaine avant. On me met de la...
Ouais, un antidouleur.
On me pique et j'aurais jamais dû me faire piquer parce que j'ai pas senti ma main. Et je perds un combat à décision. Dégueulasse le combat. Il me faisait que me coller contre la cage. Et ils ont laissé comme ça. Même lui, à la fin, il me dit, c'était mon rêve de gagner.
Oh.
Parce que lui, peut-être son rêve, c'était d'aller à l'UFC. Et il y en a, leur rêve, c'est de gagner un combattant de l'UFC. C'est moi, c'est ce ouais. Qui se passe. Quand je vais au Brésil, t'as des mecs qui ont des 10-0. Quand je fais des sparring avec eux, ils veulent me tuer.
Parce que vétéran de l'UFC. Ouais.
Pour eux, s'ils arrivent à me faire à me tuer à l'entraînement, ils ont le niveau UFC.
Ouais.
Et voilà. Et deuxième combat, ils me mettent un autre Brésilien qui a 12-1. Un tueur. Qui vient de gagner Jezias Calvacante. Par KO. Gros combat. Et moi, j'ai dit que tu sais quoi? Lui, je vais le gagner. De sûr, à 100%, je le gagne. Par contre, je ne vais pas faire de show comme avant. Ils veulent m'avoir. Ils veulent me mettre un tueur. Parce qu'il met des gros KO. Ils vont pas m'avoir. Je vais faire un combat dégueulasse, mais je vais le gagner. Qu'est-ce que je fais? Combat dégueulasse. Je le mets trois fois. Toutes les rounds, je le mets au sol. Je prends au clinch. Je fais des feintes de coups de genou. Il monte le genou pour pas que je lui mette coups de genou. Floup, je le mets au sol. Takedown de Muay Thai. Je fais takedown de Muay Thai. Je le bloque un petit peu, je le tape un peu et je marque des points. Et on se relève. Et après, pareil, des combats dégueulasses. Et je gagne mon combat. Les mecs du Pride, du Brave, ils avaient la haine. Parce qu'ils ont dit, on a gagné un tueur. Et le mec, ça devait être le prochain pour la ceinture. Et qu'ils partent à l'UFC. Et voilà, et troisième combat, je suis en Arabie Saoudite. C'était mon rêve de combattre un jour en Arabie Saoudite. Et le mec, il vient 6-7 kilos en trop. J'arrive en Arabie Saoudite, le mec, il vient 6-7 kilos en trop. Il me fait un tralala, il parle en anglais. Et normalement, il parle en arabe, c'est un Libanais. Et ouais, il tombait dans les pommes pour que j'entende. Je vais regarder. Si vous voulez, demain, il est au même poids, je le combats. Mais demain matin, s'il est au même poids, je le combats. Ah non, mais demain, il va être... S'il n'est pas au poids demain, je ne le combats pas. 6 kilos, 7 kilos, vous rigolez ou quoi?
Ouais.
Si c'est 1 kilo, peut-être, mais pas 7 kilos.
Ouais.
Et surtout, ce mec, il combattait que 83 kilos, et tous les combats qu'il a fait à 77... Il n'a jamais été au poids. Et là, il a accepté un combat à 74. Et en fait, lui, ça a été la même chose. Il a voulu gagner un combattant de l'UFC.
Ouais,
c'était son
ça.
Kiff. Qu'il fasse 5-6 kilos en trop, c'est pas grave. On va lui retirer 20% ou 30% de sa prime. Mais au moins, il a gagné. Mais moi, je suis pas...
Je ne suis pas un faire valoir.
Je ne suis pas un jouet, moi. Laisse-moi tranquille. Tu vois
ouais.
Avec qui j'ai fait, mais j'ai pris ma demi-prime.
Ah.
Et je suis allé faire la Ramana en Arabie Saoudite. Pas belle la vie, je suis payé. Je fais le rêve de pas mal de musulmans qui veulent aller faire le Hajj.
Et voilà, je suis.
Et voilà, et après, et voilà, enfin, une petite fin de carrière tranquillou. Et voilà, maintenant, je fais pas mal d'autres choses. Je suis beaucoup dans l'investissement sportif. J'ai rencontré pas mal de belles personnes grâce au fight et grâce à ce truc de sultan, de ça, parce que je travaille beaucoup avec des gens du Moyen-Orient. Et maintenant, si je recombats, bon, c'est moi qui vais faire mes propres événements ou co-organiser. Je pense en faire un dernier peut-être en Arabie Saoudite ou un à Toulon, dans ma ville où j'ai commencé. Et voilà, mais je combattrai pour le plaisir.
Ouais. Vraiment. Parce que t'en as plus besoin, là, c'est juste pour le kiff.
Juste pour le kiff. Ouais. Voilà, juste pour le kiff, ramener mes amis et le faire dans la ville où tout a commencé. Parce que j'ai commencé dans la ville de Toulon à l'âge de 17 ans. Et voilà. Donc, si vous revoyez à faire un combat d'MMA, ça sera dans ma ville à Toulon. Pour accrocher les gants.
Et la boucle sera bouclée, quoi.
Exactement. Moi, j'y attends mon rêve. Et maintenant, ce que je conseille aux jeunes qui ont des rêves, que ce soit n'importe quoi, allez jusqu'au fond, n'écoutez personne, foncez. Moi, comme je dis, j'ai un ami qui a 34 ans, il est parti au Brésil, il a fait juste un visa d'endroit, et il a fini avocat au barreau de Rio. Tout est possible, si tu veux être n'importe quoi dans la vie, tout est possible. Moi, mon rêve, c'était d'aller à l'UFC. J'ai mis 12 ans, j'ai galéré, mais j'avais que ça en tête. Voilà, j'avais rien d'autre. Eh bien, j'ai réussi. Donc, si vous avez un rêve, ne pensez pas que c'est un rêve, parce que le rêve, c'est fait que pour quand tu dors. C'est un but. Foncez, et vous arriverez.
Et qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui sont peut-être au même endroit où là, t'en étais toi à 15 ans, qui se disent que... soit aller faire le djihad en Syrie ou je sais pas, ou enfin n'importe quoi, ou des attentats en France ou n'importe quoi, et qui peut-être parce que soit ils sont du coup isolés ou parce qu'ils se sentent exclus, quoi que ce soit, toi qui as été à cet endroit-là, qu'est-ce que tu leur dirais?
Ben, essayez d'ouvrir votre esprit et de voir, de pas penser, comme j'ai dit tout à l'heure, de pas penser qu'on est enterré vivant, on est dans un endroit sombre et on pourra pas y sortir, on est en train de se faire enterrer, non. En fait, on est en train de repousser. On est en train de se replanter, en fait. C'est juste ça. Ne pensez pas que vous êtes enterré. Pensez que vous allez vous replanter pour faire une nouvelle vie. La vie, c'est une vie, c'est magnifique. Et une vie, on peut avoir une nouvelle vie à 40 ans. De 40 ans à 60 ans. De 50 ans à 70 ans, on peut en avoir une nouvelle vie. Donc ne pensez pas qu'il y a des âges à 15 ans, non. Il faut se marier à tel âge. Non. Ne pensez pas ça. Foncez à n'importe quel âge. Si... Ne dites pas que à 18 ans, je voulais être joueur de foot, soccer player. Moi, j'ai un ami, Adil Rami. À 19 ans, il était pro dans le foot. Et moi, je me rappelle, je faisais des tours de rond-point à Fréjus. Il était en train d'enlever les mauvaises herbes sur les ronds-points à 18 ans ou 19 ans.
Adil Rami.
Wow. On faisait les tours de rond-point, on klaxonnait, on le faisait remarquer. Adil wow. Et à 19 ans, ouais, et demi, il est parti, il a eu un essai à Lille, et il a joué pro.
Purée, je savais même pas ça.
Et c'est un très bon ami à moi. Donc la vie, elle est pas, il n'y a pas d'âge. On nous met dans une matrix, et on pense qu'on est coincé dans cette bulle. Il faut l'éclater, la bulle. Tout est possible. Tu peux être juge, tu peux être avocat, tout est possible. C'est eux qui te disent, va sur le chantier, t'as pas de bonnes notes, tu peux pas. Tu peux tout devenir, tu peux créer des choses. Tu peux créer un site internet, tu peux créer une application, tu peux créer, si tu veux créer toi-même des choses, tu peux les créer. Ouais. Tu peux vendre tout ce que tu veux.
Surtout
vendre.
Aujourd'hui où tu peux tout apprendre, même tout seul sur internet.
Voilà.
Et tout.
Ouais. Pense pas, je vais faire youtubeur, je vais faire... Non, tu peux faire un milliard de choses. Et ne pense pas que c'est que ce style de personne qui peut être qui peut faire ça. Toi aussi, tu peux le devenir.
Voilà, difficile de faire mieux comme conclusion. Et pour terminer, là on en arrive à la fin de ce podcast. Il y a, à la limite, il y a peut-être aussi une toute dernière anecdote, maintenant que j'y pense, que forcément je peux pas ne pas te le demander si tu veux bien la raconter, c'est, je vais juste dire le mot-clé, gâteau.
Ah ouais. Mais en fait, un jour, j'ai un combat de prévu, dernière minute, et je dormais dans une grande maison, et c'était un ancien trafiquant de drogue. Il ramenait la beuh de nord de la Californie. Il aimait bien cuisiner, ce mec, tu vois. Il avait ses nièces et ses neveux qui venaient de temps en temps. Il leur faisait à manger, il faisait des gâteaux pour eux, tout ça, tout ça. Et moi, un matin, je me réveille pour le jour de mon combat, bien dormi. Et je tape dans le frigo, je vois, il a fait des gâteaux. Et je dis, c'est pour ses nièces, tu vois, gâteau à la fraise. Et moi, je prends une part de gâteau et je mange. Et après, je fais mon petit repas, tranquille avec mes œufs, tac, 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 tac. Et lui, il se réveille, hé, Mehdi, ça va, ouais, t'as bien dormi, ouais, ben, t'es prêt ce soir, parfait, je vais le tuer. Ouais, ben. Et il ouvre le frigo, il me dit, Mehdi, quoi? C'est toi qui as touché le gâteau? Ouais. Il me fait ça. Et je comprends direct dans ses yeux. Quoi? Non. Non, stop, non. Mais oui, Mehdi, tu sais que tous les gâteaux que je fais, c'est... Mais je croyais que c'était que la brownie, moi. Parce que j'ai déjà tapé dans des brownies sans faire esprit. Quand la première fois que je venais en Californie, j'ai fini à l'hôpital. Mais je croyais que c'était que le brownie. Mais non, mais tu sais tous les trucs que je fais, moi, ça m'a beuh, putain. Je fais quoi? J'appelle Daniel. Daniel, j'ai mangé gâteau à la beuh. Encore? Mais t'es là. On galère à trouver des combats. Non, tu le prends, ce combat. Je m'en bats les couilles. Bah ok, oui, je le prends, mais je suis défoncé.
Et on arrive, bon, ça va, c'était un combat entre guillemets facile, dans une caserne indienne,
et je me rappelle, Daniel me dit, Mehdi, dans une demi-heure, le combat, il commence, échauffe-toi. Daniel, je peux pas m'échauffer, je vais utiliser toute l'énergie qui me reste, j'ai un peu d'énergie, laisse-la moi, t'inquiète pas.
Il m'avance, Mehdi, bagda,
et je pars en courant, mais comme un fou, je pars en courant, Daniel n'arrive même pas à me suivre, je pars en courant, et j'arrive... J'ai les yeux partout. Ready? Ouais, ready? Go, bah, je sais pas ce que je fais. Je lui mets un crochet, il tombe. Comme il tombe, je saute dessus et je lui mets un KO et j'ai fait mettre KO dans le truc. Et voilà, je gagne mon combat par KO. Et cette photo de ce combat, tu la vois sur ma photo de mon cher dog. Et tu le vois les yeux, j'ai les yeux rouges.
Et voilà, c'est l'anecdote du gâteau à la beuh que j'ai combattu. Ça va, il n'y a pas de contrôle positif parce que c'était dans une réserve indienne.
Ouais, donc on sait que là-bas, voilà, c'est fête du slip. Bah, Mehdi, on va pas te prendre plus de temps. Merci infiniment d'être venu raconter ton histoire ici. Enfin, c'est un film, on aurait dit, c'est pas possible, c'est pas réaliste. Mmh. Et c'est ta vie. Et, mmh. Et t'en es encore qu'à même pas la moitié. Merci pour tout. Ouais, est-ce que tu as un message peut-être avant de terminer pour ceux qui te soutiennent ou pour tes fans?
Ben ouais, ben, si vous voulez me suivre sur Insta, je mets pas mal de bonnes choses sur Insta qui font pas mal marrer. Et un gros, gros courage à tous ces Français ou ces binationaux qui font du MMA maintenant en France. Le MMA est en train d'exploser. Foncez. N'ayez pas peur de foncer, n'ayez pas peur d'accepter des nouveaux défis, ne pensez pas qu'il n'y a que l'UFC, maintenant il y a des bons événements, comme le PFL, comme le Bellator, comme le ONE FC, comme même le... Voilà, il y a des très bons événements, foncez, éclatez-vous, soyez champion comme vous voulez l'être. Ne soyez pas champion comme on vous fait croire qu'il faut l'être. Voilà.
Ben voilà, champion dans la vie quoi, ben Mehdi... Merci beaucoup.
Merci à toi, frérot.
Et puis bah à très bientôt. Et puis de toute façon, il y a sûrement un livre un jour qui sortira. Donc les gars, là, ça va être incroyable.
Bien sûr.
Merci beaucoup.
Merci à toi, frérot.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez la sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.